Oui. Bonsoir. J'ai un peu d'avance. Bon, je vais m'enlever l'écho. Oui, c'était un cut un peu brutal. Je pensais que j'étais en retard, mais en fait, je dois juste pas avoir la bonne heure. Donc, on va attendre sagement la bonne heure. J'ai changé le setup. Oui, ouais, en fait, j'ai juste déplacé mes fenêtres pour pouvoir avoir, j'espère, un accès un peu plus rapide à mes diverses fenêtres. Parce que je me suis un peu emmêlée la dernière fois. Hop. Donc, en fait, j'ai juste changé l'orientation de la caméra. Voilà. Bonsoir. Ok, donc a priori, il est 18h. On commence à l'heure ici. Ok, alors, allons-y. Donc pour toutes les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, on va faire un petit rappel, et pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas forcément ce qu'on a dit la dernière fois, parce que c'était peut-être un peu dense. On va faire un petit rappel. Alors du coup, on avait commencé par faire de la méthodologie, et j'avais dit que... Quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier dans une lecture d'ouvrage, ça pouvait être de commencer par regarder un peu ce qu'on trouve dans les dictionnaires, dans les manuels, avant de commencer la lecture, si ça nous inquiète un peu, si on pense que ça va être un peu difficile, quoi. Donc nous, ce qu'on a trouvé sur Butler, ce que je vous ai ramené à partir de mes petites recherches, pour le résumer très rapidement, c'est que les thématiques, en gros, qu'on trouve chez Butler, c'est l'idée que la catégorie de sujet, donc au sens de l'identité personnelle, l'identité d'une personne, la catégorie de sujet, elle est critiquée par Butler, et puis elle est présentée comme étant construite par des pratiques répétées, et donc le sujet n'est pas pour elle une entité préexistante. Donc le genre, pardon, il est pratiqué, il est performé, mais il ne préexiste pas et n'est donc pas exprimé en fait. Il n'y a rien qui exprime quelque chose, il y a juste deux actes, quoi. Il n'existe que par la performance. Donc ça, c'est en fait ce qu'on va voir aujourd'hui en particulier d'ailleurs. Attention cependant, à partir de ce qu'on vient de dire, et à partir de ce qu'on avait déjà vu de présentation de Butler, elle se distingue de la sociologie interactionniste d'Erving Goffman, qui donc a développé une pensée du genre à partir des années 60-70, parce que dans cette branche de la sociologie, en fait, il n'y a pas de critique du concept de sujet. Il y a l'idée, au contraire, qu'il y a un sujet sous-jacent qui vient jouer de telle ou telle manière dans des situations sociales. Un sujet qui serait la vérité de la personne, et quelque part on peut dire que on a là une sorte d'essentialisme du sujet. Mais en fait, ça c'est vraiment tout le sujet, tout le sujet, pardon, c'est un peu redondant, mais c'est un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui en fait, si on va jusque là où je pense qu'on va aller. Alors, deuxième thématique importante, ça va aller plus vite, c'est l'importance du langage pour Butler dans la formation de l'identité personnelle, pardon, le langage comme performatif, avec notamment l'influence de la philosophie du langage de Austin. Et puis, troisième point important chez Butler, on a l'articulation sexe-genre-sexualité dans le travail normatif de création de l'identité personnelle, c'est-à-dire que on a une sorte de complexe qui est censé se suivre dans un continuum très lisse de partie génitale femelle égale femme égale attirée par homme, donc hétérosexualité, quoi. Et inversement aussi pour partie génitale mâle, et pas seulement partie génitale d'ailleurs, c'est l'intégralité du corps, mais homme et attiré par les femmes. Et puis, dernier point important, c'était la critique du sujet du féminisme. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a commencé par voir la semaine dernière et ce qu'on va voir encore cette semaine. Ça commence par ça, Trouble dans le genre, ça commence vraiment par la critique du sujet féministe. Donc Qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu qu'il y avait une préface d'Éric Fassin, avec un peu de contexte pour le lectorat français, qui est relativement tardif, 2005, donc 15 ans en fait après la première parution en langue anglaise originale. Ensuite, on avait une introduction de la seconde édition états-unienne de 99. Et là, Butler revenait sur divers critiques qui lui avaient été faites pour clarifier quelques affirmations, notamment la question du drag et de la subversion des identités, la critique de la notion de sujet qui a été perçue comme trop radicale, le fait qu'elle regrette sa charge très forte contre l'universalisme, et inversement, elle précise qu'elle n'est pas contre les politiques se rassemblant autour des identités. Et puis, donc, cette seconde édition, l'introduction de cette seconde édition, en fait, elle indiquait le contexte global de la production de Troubles dans le genre. Le contexte global, c'était Butler qui essayait de venir produire une théorie féministe qui aille contre les tendances homophobes et transphobes qu'elle trouvait dans le féminisme et qui la dérangeait, elle, en tant que militante. Et puis, enfin, on arrivait sur, poussivement, l'introduction de 90, donc l'introduction de la première édition. Donc là, on considérait qu'on rentrait vraiment dans le texte, donc on rentrait plus ou moins vraiment dans le ligne à ligne de l'explication de texte. Donc en premier lieu, elle avait installé la problématique du sujet du féminisme, elle avait énoncé l'une de ses thèses, c'est-à-dire le drag comme révélant le caractère performatif du complexe sexe-genre et le fait qu'il soit le produit d'une certaine normativité. Donc là, vous avez une performativité qui est forcée, qui est inculquée. Et ensuite, elle passait à la présentation de sa méthodologie, la méthodologie qu'elle disait adopter, c'est-à-dire... en gros, elle allait chercher à savoir, par un examen de plein de sources différentes, comment les catégories sexe-genre, en gros, sont produites politiquement. Sexe, genre et sexualité sont produites politiquement. Et elle disait, on va pas en faire la genèse, mais par contre, on va voir comment ça se produit dans le présent. Et puis, la partie numéro 1 est celle qu'on voit, qu'on a vue la semaine dernière et qu'on va continuer à voir aujourd'hui. Elle avait été annoncée comme devant porter sur le sujet politique femme et sur le complexe sexe-genre et l'hétérosexualité. En gros, comment ça se produit par le langage. Alors... Et oui, effectivement, dans la première partie, on ne trouve pas encore la question de la psychanalyse. Pour ça, il va falloir attendre la partie 2. Je sais que certaines d'entre vous voulaient entendre ce qu'avait à dire Butler à propos de la psychanalyse, et il va falloir attendre encore un peu. Donc, on était passé à la première sous-partie qu'on avait faite, et cette sous-partie s'intitulait « Les femmes en tant que sujet du féminisme ». Et on avait fait l'intégralité de cette sous-partie en ligne à ligne. Donc ça commençait par énoncer le problème de la représentation, la représentation en politique et dans le juridique. En gros, ce que disait Butler, c'est que la politique de la représentation présuppose que... il y a un sujet précis. Enfin, ça présuppose qu'il faut qu'on forme un sujet précis qui doit rentrer dans un certain cadre. Et c'est un peu le paradoxe du féminisme. C'est-à-dire qu'il veut mieux représenter, il veut casser les mauvaises représentations qui sont jugées sexistes. Sauf que Butler dit, sa thèse principale, c'est que, en fait, la représentation en soi fait problème, elle est restrictive. Parce qu'elle dit il faut être comme ci ou comme ça pour pouvoir être représenté, pour accéder à la représentation politique ou juridique. Et donc au final, la représentation finit par devenir un outil d'oppression de manière générale dans le juridico-politique et elle l'est aussi dans le cas particulier des politiques féministes. De plus, on a la représentation naturelle... De plus, la représentation, elle vient naturaliser... le sujet qu'elle forme elle-même pour se légitimer. Elle crée elle-même un truc qui est le sujet de son action, quoi. Elle produit une fiction de sujet préexistant. que Butler, à un moment, comparait dans une analogie avec l'état de nature de la philosophie politique. Bon, là, je vais un peu vite sur tout ça, mais si vous voulez vraiment le détail, je vous conseille d'aller écouter ou regarder le premier live. D'ailleurs, oui, j'en profite, je fais une mini-parenthèse. Si vous souhaitez écouter seulement et ne pas avoir accès à ce que je mets ensuite, ce que je projette des parties du texte, si ça vous dérange pas de ne pas avoir accès au texte, à chaque fois, je vais verser le son sur une plateforme de podcast. Je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais vous partez en cours de route. Il n'y a aucun problème. Vous aurez accès au son uniquement si vous voulez utiliser la plateforme de podcast pour écouter certaines parties du live. Mais par contre, évidemment, vous n'aurez pas accès au texte. Que disais-je ? Oui, alors ensuite, on continuait avec cette première partie. Butler disait que du coup, en fait, pour ne pas perpétuer un cadre qui tend à produire de nouvelles situations de domination, Butler, elle dit, en fait, la tâche du féminisme, c'est pas celle de mieux représenter, c'est celle de critiquer les dynamiques de production des identités sexe-genre pour s'en débarrasser. Et donc l'enjeu, évidemment, on l'a déjà dit, c'est d'éviter un féminisme universaliste qui tend à verser dans le racisme et l'homophobie à cause de sa volonté de représentation qui produit des cadres un peu enfermants. Parce qu'on a une représentation... Et en fait, l'idée de faire une meilleure représentation, une représentation plus inclusive, en fait, ça provoque pour Butler une cartographie toujours plus précise de l'exclusion de certaines personnes du champ du féminisme. Alors, elle dit aussi, évidemment, attention, on ne peut pas actuellement se passer de la politique de représentation, mais n'empêche, il faut essayer d'aller au-delà. C'est où déjà le passage sur la représentation chez Butler c'est toute la première partie, donc ça va être vers deux heures, un truc comme ça. Alors, et ensuite, pour finir, elle dit le but à viser dans le féminisme, pour elle, ce serait le pluralisme de l'identité femme. Et reste à savoir comment va se produire ce pluralisme. Donc là, je vais vous basculer sur la projection du bouquin. Voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on est arrivé donc à la page 67 et on est arrivé... du coup, à ce que j'appelle le B, en gros, grand 1 sous partie numéro 2, ou B, quoi, l'ordre obligatoire du sexe, genre, désir. Donc on avait sauté un petit passage au-dessus, c'est pour ça qu'il est barré, mais en gros, on en était là. Donc alors, on va faire comme la dernière fois, j'espère que cette fois-ci ça va un petit peu moins laguer, j'ai mon sublime stylet cette fois-ci, on va pouvoir se mettre bien. Donc on va commencer par un gros bout, mais qui, a priori, n'est pas compliqué. Donc, je vous le lis. Bien que l'on invoque souvent l'unité des femmes comme une évidence pour construire une solidarité d'identité, la distinction entre le sexe et le genre introduit un clivage au cœur du sujet féministe. Cette distinction, qui visait d'abord à réfuter l'idée de la biologie comme destin, permet de soutenir que le genre est culturellement construit, indépendamment de l'irréductibilité biologique qui semble attachée au sexe. C'est pourquoi le genre n'est ni la conséquence directe du sexe, ni aussi fixe que ce dernier ne le paraît. Une telle distinction, qui admet que le genre est une interprétation plurielle du sexe, contient déjà en elle-même la possibilité de contester l'unité du sujet. Donc là, elle dit... Hop là. Là, elle dit, en fait, la distinction sexe-genre qu'on a commencé à faire pour analyser le phénomène du genre, en fait, ça a fait du genre une variable qui n'est pas conditionnée à l'unité supposée du sexe biologique. En gros, le genre ne découle pas du sexe. Et par conséquent, puisqu'il ne découle pas du sexe, il peut être divers. Parce qu'on part du principe que le sexe biologique, c'est deux choses distinctes, point barre. C'est très schématique, mais c'est en gros la manière un peu triviale de se représenter la chose quand on ne connaît rien en biologie, en gros. Et en gros, à partir de cette distinction sexe-genre et de l'émancipation du genre de la catégorie de sexe, le sujet femme y perd déjà en unicité, puisqu'on dit que finalement, on peut difficilement se dire que si le genre, il est par définition variable et il n'est pas conditionné ni conditionnant, alors on ne peut pas se dire que toutes les femmes ont en commun le genre, puisque justement, c'est par définition, c'est pluriel. C'est une pluralité qui vient s'exprimer, qui viendrait s'exprimer sur l'unité du sexe, sur la stabilité du sexe, même si on verra que c'est quelque chose qui est effectivement soumis à discussion très large et qu'a priori, c'est pas comme ça que le sexe fonctionne non plus. Bref. Je crois que je vous ai coupé une partie du texte. Grave erreur. Alors. Hop. Voilà, ça allait mieux. Ok. Donc, on va continuer. Alors, ça va être une petite partie encore. Hop. Zoup. Si le genre renvoie aux significations culturelles que prend le sexe du corps, on ne peut alors plus dire qu'un genre découle d'un sexe, d'une manière et d'une seule. Donc en gros, le genre, c'est un machin qui est vu comme d'origine culturelle. En gros, dans la théorie féministe post-critique du sexe, ok? Le genre, c'est quelque chose qui est vu comme d'origine culturelle, comme étant une façon de dealer avec le sexe biologique et ses manifestations. Et c'est une façon de dealer avec le sexe biologique qui est propre à chaque société, voire à chaque groupe social. C'est des expressions de comment on interpréterait le sexe. Donc ça, c'est un peu comment on se représenterait dans un proto-féminisme non critique du sexe, la distinction sexe-genre. Ça, c'est la première étape de la critique du genre. Donc on passe à la suite. Boum, et on va aller jusque-là. En poussant la distinction sexe-genre jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'elle implique, une discontinuité radicale entre le sexe du corps et les genres culturellement construits. Donc là, c'est vraiment une thèse. En gros, elle dit, en fait, c'est plus ça. Le distinguo sexe-genre, si on va vraiment au-delà, si on va vraiment explorer les catégories de sexe et de genre, en fait, si y a vraiment une rupture à prendre en compte entre le sexe biologique et le genre culturel. C'est-à-dire que le genre culturel n'est pas seulement le fait de dealer avec le sexe biologique en fonction des contextes sociaux divers. Si on pousse le distinguo sexe-genre, elle dit que vraiment il y a une rupture complète. On va voir jusqu'où ça nous mène. Donc on poursuit. Admettons pour l'instant la stabilité des deux sexes. Donc là elle dit hop, faisons comme si il y avait vraiment deux sexes et que c'était pas discutable. Admettons pour l'instant la stabilité des deux sexes. On ne peut pas en déduire que la construction des hommes porte exclusivement sur des corps masculins, ni que les corps féminins se traduisent en femmes. Donc elle dit, hommes et femmes ne sont pas construits comme identité à partir seulement de considérations morphologiques et biologiques. En gros, le genre, c'est pas juste regarder une anatomie sexuelle. C'est plus que ça, c'est autre chose que ça, même si ça en fait partie. Alors, voilà, on va passer au moment crucial où il va falloir tourner une page, mais c'est pas grave. Alors, de plus, même si la morphologie et la constitution des corps paraissent confirmer l'existence de deux et seulement deux sexes, ce qu'on viendra à questionner plus tard, rien ne nous autorise à penser que les genres devraient aussi s'en tenir au nombre de deux. Je poursuis la lecture. Hop, je vous bouge ça. Supposer que le genre est un système binaire qui revient toujours à admettre le rapport mimétique entre le genre et le sexe, où le genre est le parfait reflet du sexe, que le sexe en constitue du moins la limite. Donc là, en gros, elle dit que, ok, on a une morphologie générale qui semble dire il y a deux sexes, mais rien ne dit que deux genres, c'est une nécessité. En fait, dire qu'il y a seulement deux genres, c'est rabattre le genre sur le sexe, c'est le limiter par le sexe, ou du moins ce qu'on présuppose du sexe et qui est inexact, évidemment. C'est limiter par le genre par le sexe et faire du genre une imitation du sexe. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller au-delà de cette représentation du genre comme l'expression culturelle du sexe. Ok, alors effectivement j'avais pas mis la barre, mais on va poursuivre entre là et là. Lorsqu'on théorise le genre comme une construction qui n'a rien à voir avec le sexe, le genre devient lui-même un artefact affranchi du biologique, ce qui implique que homme et masculin pourraient tout aussi bien désigner un corps féminin qu'un corps masculin, et femme et féminin, un corps masculin ou féminin. Alors, donc elle dit encore qu'il faut vraiment distinguer sexe et genre, et que si on le fait, en fait, c'est séparer strictement le genre du sexe biologique, et donc on peut dire par exemple genre femme en désignant une personne ayant un corps biologiquement mâle. Excusez-moi, je m'embrouille un peu, j'avais mal fait mes notes. Bon. En gros, pour reformuler un peu la typologie de Butler, elle n'est pas très précise en fait dans sa manière d'exprimer les choses ici, mais effectivement, on peut dire par exemple. Si on s'accorde à séparer sexe et genre, on peut dire genre femme pour désigner un corps biologiquement mâle ou en tout cas supposé de visu et pas très bien analysé. Voilà, donc ensuite vous voyez je saute un petit passage ici là. En gros, Butler dit cette distinction radicale, en fait, elle a propulsé tout un tas de questionnements sur le sexe biologique. Et il y a eu tout plein de travaux sur la question. Alors, passons à la suite. Je vais tourner la page. Alors, différence sexuelle ou différence sexuée dans le sens où la première expression semble faire référence aux sexualités et la seconde à l'anatomie. Non, en général, on dit différence sexuelle de manière indifférente à différence sexuée. D'ailleurs, je ne sais même pas si on dit vraiment différence sexuée. Pour parler de la sexualité, on dit sexualité, différence de sexualité. Il me semble, je ne m'engage pas sur ça, mais là, en l'occurrence, on parle uniquement du sexe biologique, pour être très clair. Enfin, du sexe biologique caricaturé par, en gros, le genre qui n'a pas encore étudié finement le sexe. Voilà. Alors, du coup, on va continuer. On va passer donc au paragraphe que je vous ai noté 16. Je vais remonter un petit peu. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez me corriger sur ce que je viens de supposer out of the blue. Il faudrait vérifier. Hop, zoop. Et on va aller jusque ici. Bon, évidemment, ça rate avant. Continuons. Alors, si on mettait en cause le caractère immuable du sexe, on verrait peut-être que ce que l'on appelle sexe est une construction culturelle au même titre que le genre. En réalité, peut-être le sexe est-il toujours déjà du genre, et par conséquent, il n'y aurait plus vraiment de distinction entre les deux. Donc ça, c'est un peu tout ce que les études sur la question du sexe et de l'historicité du sexe ont amené comme supposition. Donc ici, on a l'idée que le sexe, en fait, il est déjà culturel, il est donc variable aussi, puisqu'il varie en fonction de la culture et de l'époque, en gros. Il n'est pas immuable, et que la distinction sexe-genre ne vaut rien, puisque finalement le sexe est construit par le biais du genre. Le sexe est le produit de divers discours qui connaissent une certaine variabilité. C'est ça la variabilité du sexe. Ça ne veut pas dire que vous avez des gens qui mutent brutalement dans leur corps. Ça veut dire qu'il y a une diversité des discours pour parler du sexe et que par conséquent, le sexe change. Le sexe ne se balade pas dans le monde. C'est une conceptualisation plus ou moins bien faite scientifiquement et relative aux productions des sciences et à tout ce qui les sous-tend dans leur but. Bon là, j'extrapole un peu ce que dit Butler, il y a vraiment une phrase très courte que là je tire un petit peu, mais il faut dire que Butler, elle est assez parcimonieuse en dehors des questions qu'elle pose, et en plus elle reste au conditionnel. Mais derrière tout ça, dans les références qui sont citées en notes de bas de page, c'est globalement ce qu'on trouve, hein. Je vous montre les notes de bas de page pour une fois qu'il y en a. Vous avez Foucault, vous avez Thomas Laqueur et Gallagher. Voilà, c'est un peu ce qu'on trouve en gros dans toutes ces références. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'étendre un petit peu la sauce sur ce que je disais à propos de cette phrase de Butler. Je vois qu'il y a des nouvelles choses. Une référence comme piste de réflexion, pourquoi penser à la sexualité pour penser le genre en sociologie. D'accord. Comme piste de réflexion par rapport à quoi ? Je veux bien que tu précises. Alors, on va continuer. Donc, cette petite phrase étant passée et étant bien, bien alourdie par ce que je vous propose comme interprétation, on passe à la suite. Si le sexe devenait une catégorie dépendante du genre, la définition même du genre comme interprétation culturelle du sexe perdrait tout son sens. On ne pourrait alors plus concevoir le genre comme un processus culturel qui ne fait que donner un sens à un sexe donné. C'est la conception juridique. Désormais, il faut aussi que le genre désigne précisément l'appareil de production et d'institution des sexes eux-mêmes. Donc on doit aussi, une fois qu'on a vu cette histoire de sexe comme étant relatif et variable et culturel, en fait on doit lire le genre différemment. Le genre, c'est pas seulement culturaliser le phénomène sexe, c'est également en amont produire le sexe lui-même. Donc ça veut dire que vous avez un peu deux choses différentes qui sont désignées genre, dont je vais essayer de vous faire un petit schéma sans faire trop de bêtises. Donc j'espère que là j'y suis. Donc en gros, vous avez genre dans l'opposition au sexe. Donc ça c'était la première option d'interprétation. Et vous avez le genre. Oups. Extérieur à ça. Genre. Mais qui vient produire ça, cette distinction, et surtout celle du sexe, en fait. En gros, c'est ça. Vous avez deux manières de parler du genre. C'est le genre soit comme par opposition au sexe, soit comme producteur de la distinction sexe-genre, et donc comme producteur également du sexe. Voilà. Un petit schéma très simple. Je vous le laisse. Ensuite, on passe à la suite, on va finir cette page-là. Hop. Donc après, j'ai encore parlé des choses pas très importantes, ou qui se répètent, ou qui s'avancent sans en dire trop. Donc alors, en conséquence, le genre n'est pas à la culture ce que le sexe est à la nature. Le genre n'est pas à la culture ce que le sexe est à la nature. Le genre, c'est aussi l'ensemble des moyens discursifs, culturels, par quoi la nature sexuée, ou un sexe naturel, est produit et établi dans un domaine prédiscursif qui précède la culture, telle une surface politiquement neutre sur laquelle intervient la culture après tout. Vous avez une phrase un peu compliquée, mais pour résumer, le genre, c'est ce qui vient naturaliser le sexe placer le genre comme postérieur, comme découlant du sexe et ayant été construit à partir de. Donc on a le même mécanisme que ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait des histoires de représentation et de sujets juridiques politiques. Ce sont les pouvoirs juridiques et politiques qui viennent former le sujet juridique et politique pour ensuite, après coup, dire qu'il faut représenter telle ou telle personne. Eh bien, le sujet ici, là, quand on en parle, il est naturalisé pour justifier, pour légitimer une action juridique et politique. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui préexiste à la construction de ce sujet pour l'action. Et bien là, avec le genre, c'est pareil. On a une forme de pouvoir, le genre. Alors, je vais reprendre mon petit schéma, je vais vous le montrer. Parce que je pense que c'est pas trop mal. Vous avez le genre ici. Je vais le bouger parce que je me gêne moi-même. On a une forme de pouvoir, donc le genre, celui-ci. On parle de ce genre-là. Qui, pour se légitimer, naturalise le sexe. Et en gros, il dit, bah, le sexe, en fait, c'est ce qui produit le genre. C'est à partir de ça qu'on fait du genre. Hop. Et donc ça, c'est ce truc-là, c'est naturel. Hop. Voilà. Tac. Alors, je disais... Et donc, en fait, ce petit tour de passe-passe, il est fait pour une sorte de... Alors, je reprends, je m'embrouille. Donc, on a une forme de pouvoir, le genre, qui est pour se légitimer, pour légitimer le pouvoir du genre, qui vient naturaliser le sexe. Et donc, en même temps, ça camoufle l'opération de naturalisation et ça culturalise le genre. Ou plutôt, une partie infime du genre, ce qu'on veut bien concéder sur le fond de la biologie. Donc en gros, le genre, dans la distinction sexe-genre, est un produit du genre en termes plus globaux, comme sur le schéma que je vous ai proposé. Donc il y en a une opération, je répète, hein, une opération de naturalisation du sexe, avec la création d'une conception de genre extrêmement réduite. Le genre, c'est, je sais pas, porter des robes. Alors que le sexe, le vrai truc qui existe vraiment, c'est, je sais pas moi, avoir des seins, un truc comme ça. Ou les chromosomes, ou ce que vous voulez. Donc le genre, c'est ce qui fait cette opération-là de naturalisation du sexe, de substantialisation du sexe, quoi. J'invente un demi-mot qui en mélange plusieurs, peu importe. Alors, du coup, on est arrivé au bout de cette partie-là. Je vois qu'il y a des détails de la part de Mathieu. Alors, division sexuée du travail plutôt que division sexuelle du travail. Alors, ok. Puisque cette notion sert à décrire la division du travail entre les groupes de sexe, mais aucun lien... D'accord. Ok, effectivement, je comprends tout à fait l'idée. Mais là, effectivement, c'est vrai que dans le contexte, comme je parlais uniquement du sexe biologique, j'utilisais le terme comme un synonyme, peut-être de manière abusive. Merci pour la précision. Très bien. Ok, et donc, magie de la progression. Toi, ne serait pas d'accord avec l'usage de sexuer. Ok. Très bien. Donc, poursuivons. Poursuivons. Donc, oui, magie. On arrive déjà. C'était un tout petit chapitre. Oh là, je vous ai fait une. Hop. On arrive déjà à la transition, enfin ce que j'ai appelé la transition, vers la partie suivante, donc ce que j'ai appelé le C ensuite. Alors du coup, dès lors, comment reformuler la question du genre pour intégrer les rapports de pouvoir qui créent cet effet de prédiscursivité, précisément en effaçant les traces de cette production discursive du sexe? Donc en gros, c'est ça qu'il faut observer pour Butler. C'est ce qu'on vient de dire. C'est comment le genre vient naturaliser une partie de lui-même qu'il appelle le sexe. Et c'est effectivement quelque chose qui va l'occuper pendant certains temps. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit ce qui l'occupe directement dans la partie suivante, Mais dans celle d'après, peut-être, je suis plus très sûre de l'ordre, parce que j'ai pris un peu d'avance pour les fois suivantes. Donc, nous arrivons à la partie grand 1, petit 3. Le genre, les ruines circulaires du débat actuel. Donc là, on va surtout parler de féminisme, en fait. Ok. Alors, commençons à lire. On va aller de là. Ah là, c'est toujours aussi laborieux, c'est comme ça qu'on lit bien. Je vous dis pas le temps que moi je prends pour faire tout ça. Mais bref. Alors, peut-on dire des personnes qu'elles ont un genre? Ou faut-il parler du genre comme un attribut essentiel, ce qu'est une personne, comme l'implique la question « De quel genre es-tu ?» Lorsque des théoriciennes féministes affirment que le genre est l'interprétation culturelle du sexe, ou que le genre est culturellement construit, on peut se demander comment se fait cette construction et quel en est le mécanisme. Donc c'est une question d'ouverture, même des questions d'ouverture, qui pose la question de savoir est-ce que le genre c'est un truc qu'on possède ou est-ce que c'est une essence? Donc est-ce que c'est extérieur ou est-ce que ça nous construit intérieurement? Est-ce que ça fait partie intrinsèque de notre personne? Donc ici se pose la question de savoir si le genre il est lu comme contingent, voire choisi, ou s'il est lu comme déterminé par le féminisme. Là on essaye de regarder qu'est-ce que dit le féminisme à propos de la question le genre, possession ou essence d'une personne. Donc la question, elle est assez floue en fait, mais en gros, c'est est-ce que parler du genre, ça implique ou non un certain déterminisme ? Est-ce que le genre, c'est un truc qui nous tombe dessus et boum, on ne peut rien y faire, on est emprisonné par ce truc-là. Alors, ensuite, je saute un passage, parce que, en fait, c'est encore une série de questions qui font pas du tout avancer l'argumentaire. Je vous laisse les lire par vous-même si vous avez envie de les lire. Là, je les ai un peu barrés pour moi donner de la visibilité. Et on va passer à la suite. Oups. Voilà. Alors, dans certaines analyses, l'idée que le genre est construit implique un certain déterminisme quant aux significations de genre inscrites dans des corps anatomiquement différenciés. Par quoi ces corps sont compris comme les contenants passifs d'une loi culturelle inexorable. Que lorsque la dite culture construisant le genre est appréhendée dans les termes d'une telle loi ou d'un ensemble de lois, alors le genre paraît aussi déterminé et fixe qu'il l'était dans l'idée de la biologie comme destin. Dans ce cas, le destin, ce n'est pas la biologie, mais la culture. Donc en gros, pour certaines compréhensions du genre, pour certains féminismes, eh ben oui, il y a une forme de déterminisme dans l'identité de genre. Du moins, si c'est pas présenté comme le déterminisme, en tout cas si c'est pas présenté explicitement comme ça, finalement c'est ce qui en découle. Et en gros, le genre se manifeste à la manière d'un déterminisme culturel auquel on ne peut rien changer, qui est agissant dans les personnes malgré elles et sans qu'elles puissent en changer quoi que ce soit. Et donc ce déterminisme du genre, il est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'encodage culturel du biologique. C'est une façon de dire que en fait, le genre, c'est juste dealer, comme je disais tout à l'heure, avec le biologique. Dans telle culture, chaque individu est déterminé culturellement à encoder le sexe biologique de telle manière à travers le genre. Et donc le genre, ici, est le truc culturel. Donc en fait, c'est un passage assez flou, je trouve, de la part de Butler. Bon, ça va pas nous changer beaucoup, mais le problème, c'est qu'il comprend aucune référence bibliographique, donc c'est assez difficile de savoir exactement à quoi elle fait référence dans la pensée du genre, dans les féminismes, etc. Mais en gros, elle dit qu'il y a une certaine pensée du genre, un certain féminisme qui est déterminisme au niveau de la culture, et la culture étant l'encodage culturel du biologique. Voilà. Alors, je propose de continuer. On va tourner la page. Pour une fois, on tombe sur la suite. Du coup, alors, excusez-moi, je vous ai pas mis le haut de la page. Il faut que j'y pense. Bon, c'est un peu flou la photo, je suis désolée. Le focus n'est pas toujours bien fait quand je prends la photo, parce que je le scanne pas, sinon vous vous zappez la moitié de la page, ce qui est aussi un inconvénient. Donc, j'ai choisi le moins pire. Du coup, continuons. Par ailleurs, Simone de Beauvoir suggère dans Le deuxième sexe que l'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. Celle-là, on la connaît plutôt pas mal. Pour Beauvoir, le genre est construit, mais sous-jacent à sa formulation. Il y a un agent, un cogito, qui prend ou s'approprie ce genre et qui pourrait, en principe, endosser un tout autre genre. Le genre est-il aussi variable et un acte aussi volontaire que l'analyse de Beauvoir semble le suggérer ? Peut-on, dans ce cas, réduire la construction à une forme de choix ? Bon là, donc vous avez la citation de Beauvoir, et elle est présentée par Butler comme, en fait, le sujet envisagé comme agissant et comme devenant potentiellement volontairement quelqu'un. Donc un homme ou une femme. Ou... Peut-être que c'est une lecture forcée, un peu forcée, de la part de Butler, à l'endroit là de ce qui est appelé le cogito. Mais en gros, parce que en fait, finalement, on peut devenir quelque chose, quelqu'un, on peut devenir une personne d'une certaine manière ou d'une autre par l'éducation. Ça n'implique pas nécessairement un choix, mais c'est la manière dont Butler l'interprète pour l'instant. Mais c'est l'occasion pour Butler de poser la question, en fait, c'est surtout ça, à mon avis, qui est important ici, malgré les questions qu'on peut poser sur son interprétation de la citation de Beauvoir. En fait, c'est l'occasion pour Butler de poser la question, le genre comme construction, est-ce qu'il peut être envisagé comme un choix ? La question reste encore ouverte. Bon, on poursuit, on va voir qu'en fait, finalement, elle lisait pas vraiment Beauvoir comme ça. Ou en tout cas, elle ne reste pas longtemps sur cette interprétation. Je continue. Beauvoir affirme clairement que l'on devient une femme, mais toujours sous la contrainte, l'obligation culturelle d'en devenir une. Il est tout aussi clair que cette contrainte ne vient pas du sexe. Dans son analyse, rien ne garantit que celle qui devient une femme soit nécessairement de sexe féminin. Donc là, on a une précision sur ce que dit Beauvoir. Au-delà de la citation que Butler, il y a une seconde, interprétait, visiblement volontairement, à côté de sa signification, ou en lui prêtant un caractère ambigu, qu'on peut très bien ne pas voir, en fait. Parce que je pense que la plupart des gens, quand ils lisent la citation de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on ne devient », ils ne se disent pas « C'est un matin qu'on se réveille pour ». C'est plutôt l'idée qu'effectivement, c'est une construction de l'ordre de la... qui se passe dans la société, excusez-moi. Et donc, une précision sur ce que dit Beauvoir, en fait, devenir genré pour Beauvoir, ça se passe sous la contrainte de la culture. Ce n'est pas la résultante du biologique, et donc, il y a une possibilité, en lisant Beauvoir, de thématiser de l'existence des personnes trans. Ce qui est plutôt positif. Poursuivons. Hop, on va aller jusque-là. Si le corps est une situation, donc là c'est une citation de Beauvoir, hein, le corps est une situation. Si le corps est une situation, comme le dit Beauvoir, il n'est pas possible de recourir à un corps sans l'interpréter, sans que ce corps soit toujours déjà pris dans des significations culturelles. C'est pourquoi le sexe ne saurait relever d'une facticité anatomique prédiscursive. En effet, on montrera que le sexe est, par définition, du genre de part en part. Et donc là, ce commentaire sur le corps est une situation. Donc en fait, ce qui est dit ici, c'est que le corps est envisagé, chez Beauvoir, par le prisme du culturel. Et donc le corps est toujours déjà pris dans la culture. Donc, ce qui est désigné comme sexe, chez Beauvoir, est culturel, ne préexiste pas à du genre et n'est pas un support immuable de la culture, comme codage d'un donné invariable et fixe. La culture ne vient pas expliquer de manière différente dans ces petites histoires diverses ce qui est un truc qui serait le sexe et qui existerait au-delà de la culture, en dehors de la culture. Voilà, donc on passe à la suite. Hop, on va aller jusque-là. Manifestement, la controverse sur ce que l'on entend par construction bute sur la polarité philosophique classique entre le libre arbitre et le déterminisme. En conséquence, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'une certaine restriction linguistique imposée à la pensée tout à la fois façonne et limite les termes du débat. Ok, donc ça, on a une phrase qui est un peu obscure, mais en gros, elle dit le libre arbitre versus le déterminisme, en fait, c'est l'alternative qui se pose comme un cadre limitant à la pensée du complexe sexe-genre-sexualité. Et on va voir comment ça se produit. Je poursuis. Hop, on va aller jusque-là. Dans ces termes, le corps apparaît comme un simple véhicule sur lequel sont inscrites des significations culturelles, ou alors comme l'instrument par lequel une volonté d'appropriation et d'interprétation se choisit une signification culturelle. Dans tous les cas, on figure le corps comme un simple instrument ou un véhicule auquel on attache un ensemble de significations culturelles qui leur sont externes. Donc, pour résumer, le corps apparaît dans cette alternative entre libre arbitre et déterminisme, qui est le cadre qui limite notre pensée du sexe et du genre. Le corps apparaît comme un donné. Soit c'est un véhicule, donc on accroche des significations culturelles sur le corps, c'est un support pour la pensée, soit c'est un instrument. Et alors, on choisit ce qu'on en fait culturellement. Mais au fond, il y a toujours cette histoire de donner. Et donc on va continuer. Je poursuis la lecture. Mais le corps est lui-même une construction, comme l'est la myriade de corps qui constitue le domaine des sujets genrés. On ne peut, je tourne la page, on ne peut pas dire que les corps ont une existence signifiante avant la marque du genre. Donc là, Butler, elle dit non, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être suggéré. Le corps, c'est une construction, c'est pas un donné, et ce, jusque dans ce qui est nommé sexe biologique. Il n'y a pas de corps antérieur au genre. Et je poursuis. D'où la question suivante. Dans quelle mesure le corps vient-il à exister grâce aux marques du genre? Comment reconceptualiser le corps pour qu'il ne soit plus envisagé comme un simple véhicule ou instrument qui attend une volonté immatérielle, qu'une volonté immatérielle distincte lui insuffle la vie? Donc il faut repenser le corps autrement que comme un donné. C'est le travail auquel on est censé s'atteler et qu'on va faire avec Butler. Hop. Tout a l'air bien, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à les poser. Vous voyez qu'on fait régulièrement des pauses de passage, s'il y a besoin, si vous voulez plus de schémas. Je peux faire plus de schémas. Alors, je poursuis. Que le genre ou le sexe soit donné ou déterminé, ou un choix libre dépendant d'un discours qui, comme on le verra, vise à poser certaines limites à l'analyse ou à garder certains dogmes de l'humanisme, comme postulat de base pour toute analyse en termes de genre. Ce qui reste irréductible, que ce soit dans le sexe, le genre, ou encore dans la signification même de la construction, nous indique les possibilités culturelles que l'on peut mobiliser ou non dans une analyse plus poussée. Donc là, c'était une phrase atroce que je vous traduis ici. Le fait qu'on soit toujours dans cette dichotomie libre-arbitre déterminisme pour penser la question du genre et le féminisme fait que le fait qu'on ne sorte pas de cette dichotomie, en fait, ça a un caractère informatif à l'égard de ce que ces conceptions du genre font de nos fondements culturels, la manière dont elles ne s'en émancipent pas, en fait. Donc, que cette alternative ne soit pas dépassée, donc alternative entre libre-arbitre et déterminisme, que cette alternative ne soit pas dépassée, ça indique l'existence sous-jacente d'un paradigme dont on ne se détache pas et dont on ne veut pas se détacher. Et Butler suggère ici que c'est ce qu'elle désigne de manière très floue, certains dogmes de l'humanisme. Donc il faut qu'on extrapole un peu ce que c'est que ça. En fait, je pense que ici, elle désigne quelque chose comme le sujet libre au-dessus des contingences naturelles qui est capable de penser et de se penser. Et donc ça implique une certaine unité, une certaine identité de la personne humaine, ça implique que le sujet existe. Avoir une identité dans ce cadre-là de certains dogmes de l'humanisme, c'est être capable d'assumer en tant que personne des choix, des actes, des pensées, etc. Et à tout ça, bah, il faut un support qu'on appelle le sujet. Alors certes, c'est positionné dans un corps, on ne sait pas trop où, il y a eu beaucoup de discussions sur ça dans toute la philosophie moderne. C'est positionné dans un corps, le sujet, mais c'est pas réduit à lui. Et donc c'est avec ça, comme conception générale du sujet et de la personne, que on pense le genre. On ne s'est pas débarrassé de ces présupposés-là. Et donc, pour Butler, c'est pour ça qu'on est bloqué en fait dans cette alternative et avec cette conception du corps. Je vois qu'il y a des petites questions. En gros, un corps ne devient pas femme car il n'y a pas de corps antérieur au genre. Alors là, en fait, tu mélanges des façons d'exprimer les choses qui sont pas, qui rendent ta question un peu floue. Mais du coup, un corps ne devient pas femme car il n'a pas de corps. Il n'y a pas de corps antérieur au genre. Alors, en fait, c'est surtout que le sexe est vu par Butler comme un construit. Et par conséquent, quand on parle du sexe femme ou du sexe femelle, en fait, on parle d'une certaine représentation de ce que c'est que le sexe. Alors j'essaie de relire la question pour bien expliquer parce que il y a beaucoup de choses dedans. C'est pas qu'il ne devient pas femme, c'est plutôt qu'il il n'est pas quelque chose, il n'est pas déterminé avant d'avoir été happé par la conception du sexe et la conception du genre qui sont intriquées les unes dans les autres. En gros, je pense que c'est plutôt ça la manière dont je pourrais t'expliquer clairement. Mais on va continuer, c'est uniquement ça dont on va parler pendant un bon bout de temps encore. Alors, une explication sur le lien avec la phénoménologie en note 16. Oui, alors la note 16. Ah, c'était juste avant. Alors, qu'est-ce que. Relevons la fréquence avec laquelle les théories phénoménologiques, par exemple celle de Sartre, de Merleau-Ponty et de Beauvoir, tentent à utiliser le terme incorporation. Tiré de contexte théologique, le terme tend à figurer le corps comme un mode d'incorporation et donc à maintenir le rapport d'extériorité et la dualité entre une matérialité signifiante et la matérialité du corps en lui-même. Donc en gros, elle explique que dans la philosophie, jusque dans la phénoménologie, il y a une expression qui parle effectivement de l'incorporation, et ça donne l'idée que, en fait, il y a quelque chose à incorporer, que vous avez une sorte de substance qui serait, ouais, peut-être quelque chose comme l'esprit, ou en tout cas la conscience, ou peu importe comment c'est formulé dans ces pensées-là. Et du coup, ça suggère que derrière le corps et derrière les actions, il y a un quelque chose qui a besoin d'être habillé, en fait. Je pense que c'est ça. Et donc c'est une référence à la manière dont une certaine philosophie, jusque dans la phéno, qui est justement plutôt centrée sur la conception de l'expérience avant toute chose, eh bien, elle non plus n'arrive pas à se débarrasser de la conception du sujet comme sous-jacent, comme existant avant l'arrivée dans un corps qui serait l'habitation du corps, quoi. Ah, la citation de Beauvoir. Ok. Alors, pourquoi la citation de Beauvoir? On ne naît pas femme, on le devient. C'est plutôt l'idée que femme, c'est quelque chose qui vous arrive au sein d'une société, au sein d'une culture, et qui ne fait pas référence justement à un corps. Un corps qui serait du sexe, quoi, mais des comportements qui vous sont appris dans la société, quoi. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions encore. J'ai l'impression que Judith Butler essaie de réconcilier de manière dialectique une identité de genre objet auquel on est assigné, stigmatisé par les cultures dominantes, et l'identité de genre sujet. Ça, c'est un peu compliqué. Je laisse de côté pour le moment. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'avancer. Voilà. Donc, je vais continuer. Excusez-moi. Alors, du coup, on était passé sur les histoires de dogme humaniste avec la phrase très compliquée. Hop, on va lire la phrase suivante. Les limites inhérentes à l'analyse discursive du genre présupposent et prédéterminent la possibilité d'imaginer et de réaliser des configurations de genre dans la culture. Et donc ces dogmes humanistes dont je viens de parler, donc cette histoire de le sujet pensant qui prend des décisions, etc., qui est au-delà du corps même s'il y est positionné dedans, etc. Donc ces dogmes humanistes qui conditionnent la pensée du genre, en fait, conditionnent également ce qu'on pratique en termes de genre, concrètement. Oui, le terme l'analyse discursive, c'est ce qu'on dit sur le genre quand on en parle. Hein. Voilà. Donc c'était une phrase assez courte, on va passer à la suite. On est allé jusque-là, et on va aller désormais jusque-là. Cela ne veut pas dire que n'importe quelle possibilité, ni que toutes les possibilités genrées sont ouvertes, mais que les contours de l'analyse montrent les limites d'une expérience façonnée dans et par le discours. Donc évidemment, dit Butler, ça ne veut pas dire que on peut envisager n'importe quelle disposition de genre dans la situation supposée où on se débarrasserait miraculeusement des dogmes qui viennent canaliser justement l'analyse discursive, mais ça veut dire que, en fait, on peut observer dans la manière qu'a le discours sur le genre d'être limité, ici à une alternative déterminisme libre-arbitre, et dans la manière dont celui-ci, le discours sur le genre, vient limiter nos pratiques à l'égard du genre. On peut observer, à travers tout ça, que l'expérience, la pratique, ce qu'on fait, eh bien, ça a un cadre discursif limitant. Notre manière de dire les choses, de les expliquer, ça limite nos manières de faire. Et on est donc limité avec cette histoire de sujet préexistant, d'entité. Au-delà du corps, qui est traîné par ces fameux dogmes humanistes dont on n'arriverait pas, pour Butler, à se détacher. Alors, la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce que c'est que ce cadre discursif limitant, et ça va être précisé juste après, dans la suite que je vais vous lire tout de suite. Ces limites sont toujours posées dans les termes d'un discours culturel hégémonique fondé sur les structures binaires qui se font passer pour le langage de la rationalité universelle. La contrainte est donc inscrite au niveau même de ce que ce langage permet de formuler et d'imaginer en tant que domaine du genre. Donc ce cadre, qu'est-ce que c'est, comment elle se caractérise? Eh bien ce cadre, c'est le discours culturel hégémonique, pour citer Butler. le discours culturel hégémonique, donc ses structures binaires, sa prétention infondée à exprimer l'universel, et donc tout ça, on le retrouve dans le discours sur le genre. On est assis sur des conceptions binaires et qui veulent exprimer l'universel, et bien tout ça, on le retrouve dans le discours sur le genre. C'est ça qui le conditionne. Volontairement ou involontairement, c'est pas tout à fait clair, mais c'est un truc qui, pour Butler, tire vers le bas l'analyse du genre, l'empêche de proposer autre chose et de se dépasser, quoi, de dépasser le cadre qui la limite. Alors, c'est ce que j'essayais d'exprimer, concilier les identités de genre déterminées, assignées, imposées. Ouais, mais on va continuer et tu vas voir que tu vas le retrouver. Je pense, ta question, on y répond après. En tout cas, Butler y répond après, je pense. Alors, poursuivons du coup, on passe à notre petit point 21. Il arrive qu'on parle du genre comme d'un facteur ou d'une dimension de l'analyse en sciences sociales. Mais on l'utilise aussi pour des personnes en chair et en os, comme une marque de la différence biologique, linguistique et ou culturelle. Donc là, vous voyez que la magie de Butler, c'est que d'une phrase à une autre, on a un peu l'impression de sauter du coq à l'âne, mais on va y arriver. Alors, donc, ce que dit Butler ici, c'est assez simple. Elle dit il y a deux usages du concept de genre. Il y a l'usage des sciences sociales, dans le cadre d'analyses qui font du genre une sorte de variable à prendre en compte, quoi. Et puis, il y a le genre qu'on mobilise comme concept quand on parle de personne réelle, quand on parle d'identité personnelle. Et c'est ça qui va intéresser Butler. Bon, c'est pas un grand secret, c'est ce qui l'intéressait déjà depuis le début, mais bon, merci de l'avoir reprécisé. Alors, on poursuit. Appliqué à des personnes, le genre peut être compris comme une signification que prend un corps déjà sexuellement différencié. J'explique. Donc, en gros, des personnes, et ben en fait, quand on parle de genre pour des personnes, c'est possible de comprendre le genre comme codage culturel d'un corps. Telle personne en tant que corps, sexe biologique, compris en tant que homme ou femme, genre. Donc ça, c'est une manière de lire le truc. On a déjà dit, mais on le redit, on sait jamais. Alors, on va poursuivre. Attention, il va y avoir un tournage de page. Hop. Mais, même dans ce cas, cette signification n'existe. Que par rapport, et il s'agit d'un rapport d'opposition, à une autre signification. Certaines théoriciennes féministes soutiennent que le genre est un rapport, voire un système de rapports, et non un attribut individuel. Du coup, alors, excusez-moi, je remarque juste où est-ce qu'on s'est arrêté. J'explique. Donc, on a l'idée du genre dans cette histoire de la personne, l'identité personnelle. Donc, un genre, oui, mais par opposition à l'existence d'un autre genre. Sinon, le genre n'a pas lieu d'être. C'est un rapport de différenciation et d'opposition. D'où l'idée que, en fait, le genre, ça comprend non pas comme quelque chose qui se rapporte à la personne en tant que personne, genre c'est pas juste son identité, mais le genre est censé être compris comme un rapport. C'est-à-dire, la définition d'une personne est permise par un système de différenciation, de classification, de différenciation d'avec d'autres personnes. Telle personne est une femme uniquement parce que telle autre personne est un homme. Et c'est une façon de hiérarchiser et d'organiser le social. Je pense que c'est quelque chose comme ça, j'extrapole. Mais là aussi, il n'y a pas trop de citations de la part de Butler pour savoir à quoi elle fait référence. Mais en gros, on a cette manière de concevoir le genre comme étant non pas quelque chose qui vient de l'intérieur, mais qui est une relation d'opposition à d'un genre à l'autre, en gros. Ensuite, on va aller jusque ici dans la lecture. D'autres, à la suite de Beauvoir, soutiennent que plutôt qu'un seul genre à être marqué, D'autres, à la suite de Beauvoir, soutiennent plutôt que le seul genre à être marqué est le genre féminin, que la personne universelle est assimilée au genre masculin, moyennant quoi les femmes sont réduites à leur sexe et les hommes glorifiés pour incarner, au-delà du corps, la personne universelle. Donc il y a une autre lecture possible de la manière de... Enfin, il y a une autre lecture possible de ce que c'est que le genre. C'est pas quelque chose d'une... C'est pas une opposition ou une symétrie. Mais plutôt, si on suit Beauvoir, en fait, et d'autres, à la suite de Beauvoir, le seul genre qui existe, c'est le genre féminin, parce que lui seul est pensé comme rivé et réduit au sexe biologique, au corporel, tandis que le masculin disparaît dans le sujet universel. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit chez Beauvoir et chez d'autres qui sont un peu de... ont un peu la même pensée. C'est assez répandu comme manière de concevoir le genre, de dire que seules les femmes sont considérées comme un genre ou comme un sexe, parce que en fait, ce sont les seules entre hommes et femmes. Il y a juste les femmes qui sont désignées comme des corps, tandis que justement, les hommes sont plutôt crédités du côté de la pensée, du désincarné, parce que le sujet n'est pas réduit à son corps, etc. Et puis l'action de l'universel aussi et du sujet. Donc finalement, dans cette situation-là, on voit que la discrimination sexiste, en fait, elle retire la possibilité aux femmes d'être conçues comme des sujets à part entière, et elles sont réduites à des corps. C'est une lecture féministe relativement répandue, voire classique, en gros. On va continuer, on va voir que tout ça, c'est ce qui est discuté par Butler ensuite. C'est vraiment central. Elle pose ça et ensuite elle y revient. En fait, c'est toujours comme je disais l'autre fois, on a vraiment une écriture en aller-retour. Donc on sème quelques petites graines, assez floues, et ensuite on y revient en détail. C'est un peu le mode de construction du discours chez Butler, j'ai l'impression. Alors, existe-t-elle un nom pour ces deux interprétations, utilisation de genre. Eh ben, Butler ne dit rien en particulier, et comme elle ne cite absolument rien ni personne, ou enfin en tout cas assez de Beauvoir, je ne sais pas s'il y a vraiment un nom pour le désigner. Là, j'ai rien qui me vient en tête. S'il y a des gens qui ont des références à ce propos, éventuellement. Mais c'est pas nommé par Butler, donc je ne sais pas. Alors, je disais que je poursuivais. Allons-y. Les termes de la discussion se compliquent avec Luce Irigaray. Donc, troisième manière de penser le genre, Luce Irigaray. Celle-ci soutient que les femmes sont un paradoxe, si ce n'est une contradiction, dans le discours même de l'identité. Les femmes sont ce sexe qui n'en est pas un. Excusez-moi, j'ai fait une barre avant. On en est ici. Alors là, ça va vous paraître très étrange si vous ne connaissez pas Irigaray. Ok, on va faire un petit détour pour expliquer précisément ce que raconte Irigaray. Mais d'abord, je vais juste vous expliquer cette phrase. Donc, ici, on a l'idée que la thèse d'Irigaray, c'est une troisième manière de penser le genre, ou en tout cas de concevoir l'identité femme, puis c'est ce qui intéresse ici Butler. Donc, femme, pour Irigaray, c'est, comme elle dit, ce sexe qui n'en est pas un. Il y a tout un jeu sur le 1, justement, on va voir pourquoi. Et donc les femmes sont perçues par Irigaray comme quelque chose de paradoxal. Elles ne sont pas un sexe, ou elles n'en sont pas un, mais peut-être plusieurs. Donc c'est assez mystérieux. Donc petit disclaimer, voire gros disclaimer, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Irigaray, son vocabulaire, il est extrêmement ancré dans la version biologisante de la compréhension du genre, en fait. Pour Irigaray, femme, c'est le sexe. Et en fait, c'est le sexe, ça, pour elle, ça veut dire c'est une certaine génitalité, en fait, qui serait étendue à l'ensemble du corps. Et en plus, on voit bien dans ce passage-là que... est-ce que c'est dans ce passage-là ? Souvent, Butler, elle utilise le terme phallogocentré. En fait, c'est un jeu entre le phallus, donc le pénis, le logos, le discours, et donc c'est phallogocentré, ce serait un discours centré sur le pénis, quoi. On ne parlerait que de pénis. Donc, on voit bien que quand on lit Irigaray, et quand parfois Butler utilise le terme phallogocentré, on a une focalisation très importante sur le genre comme lu de manière biologisante. Et il faut savoir, bah, c'est assez curieux parce que Butler le dit plus tard, mais effectivement, Irigaray est très très essentialiste. Voilà, donc je vais développer un petit peu sur Irigaray parce que ça me semble important de préciser. Et je vous ai pris une petite notice de dictionnaire. Parce qu'on va vraiment parler beaucoup d'Irigaray, ça fait une grosse partie de cette sous-partie. Alors, est-ce que vous allez voir la notice correctement ? Ouais, super. Ok, je vais vous la lire aussi. Elle est pas très très longue, mais je pense qu'elle est très intéressante. Donc, Irigaray Luce, elle est née en 1930. En Belgique, Luce Irigaray étudie à l'université de Louvain, puis à Paris 8, où elle obtient une licence en psychologie et un diplôme de psychopathologie. Donc son créneau, elle, c'est la psychologie. Licenciée de lettres modernes, c'est aussi son créneau, est titulaire d'un doctorat de troisième cycle en linguistique, docteur d'état en philosophie, elle devient directrice de recherche en philosophie au CNRS à partir de 1964. Donc, c'est sacré diplômé, quoi. En 74, Luce Irigaray est à la fois ostracisée de l'école freudienne de Paris, où elle est psychanalyste, et suspendue de son enseignement à Vincennes, où elle est en poste depuis 4 ans. Ces deux sanctions font suite à la publication de sa thèse, Speculum de l'autre femme. Cette recherche est reconnue internationalement, en particulier aux États-Unis, sous le nom de French Theory. Luce Irigaray revisite toute la philosophie occidentale, en particulier Platon, ainsi que les théories freudiennes et lacaniennes d'un point de vue de femme, et donc d'un œil fortement critique. Là, Lacan ira jusqu'à lui écrire que son projet d'enseignement n'avait pu être retenu. Luce Irigaray est la première à remettre profondément en cause toute la perspective masculine du discours et de la culture au cours de l'histoire. La pensée philosophique s'est constituée sur et à partir du seul et unique sujet masculin, ne permettant pas l'émergence du sujet femme, niant ses valeurs, empêchant tout dialogue entre les deux sexes. Même Simone de Beauvoir, déplorant la place de deuxième dans laquelle, là, je tourne la page, femme est maintenue, est restée dans la perspective d'un sujet unique, l'homme comme modèle à égaler en lui ressemblant le plus possible. Pour Luce Irigaray, le sexe féminin ne doit pas être deuxième, inférieur, mais différent, véritablement autre, les luttes de femmes consistant à reconnaître leur identité propre. Donc citation de Irigaray ici. C'est en affirmant sa différence que la femme peut se libérer de l'emprise sur elle d'une culture au masculin. Fin de citation. Cette culture patriarcale fait d'elle une marchandise que les hommes s'échangent. Citation. Et si les marchandises refusaient d'aller au marché, fin de citation. Un sol à ensemencer pour se reproduire, citation. Je vais peut-être sauter tout ça. Alors il y avait des choses qui étaient intéressantes ensuite. Alors, il ne s'agit pas de dire que la femme possède quelque chose de plus que l'homme, mais de chercher quelle économie différente cela induit. D'ailleurs, Luce Irigaray, je suis ici, prend soin de ne pas survaloriser la fonction reproductrice. Citation, il me semble plus important pour les femmes qu'elles exercent et déploient leur liberté créatrice, qu'elles deviennent co-créatrices d'un monde où la différence sexuelle serait source d'engendrement qui ne se limite pas à la procréation d'enfants. Fin de citation. Comment mettre au jour cette différence? Dans Ce sexe qui n'en est pas un, l'autrice pointe la pluralité des zones érogènes féminines. Citation. La femme a des sexes un peu partout. Elle jouit d'un peu partout. Non pas, comme le voulait Freud, du clitoris, que la fillette prend pour un pénis rabougri, mais obligatoirement du vagin pour devenir une vraie femme, mais des deux organes et des lèvres, de la vulve, du col utérin, de la matrice, des seins, etc. Son sexe se touchant tout le temps en lui-même. Fin de citation, je crois. Non. Si. Lucie Rigaray, à partir de l'économie libidinale féminine, à partir de la mécanique des fluides, envisage une véritable altérité sociale, économique, éthique, linguistique, culturelle, en fait, de nouveaux rapports au monde. Le déroulement temporel, les repères spatiaux, le lien à la nature sont différents et ces singularités féminines ne peuvent se dire qu'à l'aide d'un autre langage, une syntaxe du féminin. Et alors, excusez-moi, le zoom est tout nul. Hop. Excusez-moi. Ok, alors je pense que c'est pas nécessaire de lire la suite. Non, c'est pas très important. Mais en gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que Irigaray, dont parle abondamment Butler, elle le dit à un moment, effectivement, mais il faut bien voir que Irigaray, elle est dans le différentialisme et dans une très forte essentialisation du féminin pour elle. C'est vraiment la différence, etc., etc. Donc, je vous remets sur notre texte, il me semblait important de le préciser pour qu'on sache bien un peu tout le contexte, parce que Butler en parle très peu au début. Alors, elle le précise ensuite, mais quand on lit juste le texte de Butler, on se demande de quoi elle parle, c'est quoi cette histoire de jeu de mots avec ce sexe qui n'en est qu'un. Et bien en fait, ce jeu de mots, ça veut dire que chez Irigaray, il y a une pluralité physique du sexe féminin, parce que les zones érogènes, etc. Et il y a un énorme travail d'Irigaray justement sur le fait de repenser la psychologie et la psychanalyse en la sortant du prisme, en gros, masculiniste, qui pouvait être celui des théories freudiennes et lacaniennes. Donc ça, c'est un peu le gros contexte. Alors je vois qu'il y a une question avant de reprendre. La transformation volontaire du corps dans la construction d'une identité va-t-elle dans le sens d'un libre arbitre, ou est-elle plus ou moins déterminée? Alors la question est très claire, sauf que c'est pas trop la question qui est posée du tout par Butler, donc je vais pas pouvoir y répondre, parce que le but ici, c'est d'expliquer Butler, donc je vais pas pouvoir lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Voilà. Alors je crois qu'il y avait d'autres questions, non? Alors, non, c'est assez bon, a priori j'ai répondu à tout pour l'instant. Alors, donc voilà, j'avais besoin de préciser ça, et on rentre effectivement dans un passage où on va lire beaucoup de textes, beaucoup d'explications, de pensées qui, a priori, sont extrêmement différentialistes et extrêmement essentialistes et centrées sur une sorte de corps féminin à la fois porté à l'attention et... je ne sais pas comment le dire plus que ça, mais effectivement... essentialiste et différentialiste. Donc ça me semblait important de le répéter. Alors, pouf, la suite. Donc je vous avais déjà mis la petite marque ici. Oup, on va aller jusque là. Dans un langage éminemment masculiniste, un langage phallogocentrique, donc ça c'est le terme que je viens d'expliquer, les femmes constituent l'irreprésentable. Parce que justement, il y a a priori pas de pénis, vu que ça c'est un peu le truc de Irigaray. Autrement dit, les femmes représentent le sexe impensable entre l'absence et l'opacité linguistique. Donc, explication. Chez les masculinistes, en fait, ce qui compte, c'est le masculin. Et chez Irigaray, le masculin, c'est le corps masculin et surtout le pénis. Et donc, les masculinistes ne s'intéressent pas aux femmes, parce qu'elles sont perçues comme absence de sexe. La femme n'est pas pensable, parce qu'elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de pénis. Donc, en tout cas, chez Irigaray, dans sa version extrêmement essentialisée et différentialiste, pour Irigaray, selon les masculinistes, les femmes ne sont pas pensables, donc ils n'en disent rien, ils n'en pensent rien. Ok. Soit. Donc on poursuit la lecture. Jusque-là. Dans un langage qui repose sur une signification univoque, le sexe féminin constitue ce qu'il est impossible de contenir et de désigner. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que les femmes sont ce sexe qui n'en est pas un, non pas un, mais multiple. Ok. Donc on parle de signification univoque. Donc signification univoque, je suppose que là ça fait référence à l'idée du pénis, encore une fois. Donc pas de pénis, ça serait pas de sexe pour les masculinistes. Pas un mais multiple, bon c'est pas précisé mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a, en fait, y a, sur le texte, on voit qu'il y a juste une note de bas de page, et la note de bas de page, elle fait voir Lucy Rigaray, ce sexe qui n'en est pas un. Donc, allez lire Lucy Rigaray. Donc, bon, je vous ai fait le résumé de la notice de dictionnaire qui était le dictionnaire des féministes en France, si vous voulez la référence. On va pas lire Rigaray, mais voilà ce qu'on en sait, en gros, sur Rigaray. Donc, on continue. C'est très flou, ça va devenir plus clair ensuite, on ne s'inquiète pas. Je continue la lecture. Contrairement à Beauvoir, pour qui les femmes sont désignées en tant qu'autres, Irigaray suggère que le sujet et l'autre sont tous deux des piliers masculins d'une économie de la signification, fermée sur elle-même et phallogocentrique, et qui parvient à ses fins totalisantes en excluant totalement le féminin. Pour Beauvoir, les femmes sont les pendants négatifs des hommes, le manque contre lequel l'identité masculine se différencie elle-même. Pour Irigaray, cette dialectique particulière forme un système qui exclut toute autre économie de la signification. J'explique et je réponds au chat ensuite. Alors, donc en gros, on a d'un côté Beauvoir qui dit, en gros, dans une conception masculiniste, dans une conception sexiste, la femme est présentée comme l'autre, c'est-à-dire le négatif du sujet, le manque sur lequel s'appuie le sujet masculin, l'identité masculine, pour se construire. Donc là, vous voyez qu'on a ce fameux rapport d'opposition, avec cette opposition qui n'est pas symétrique dans le sens où chez Beauvoir, on a l'idée qu'effectivement, l'autre du sujet est hiérarchiquement inférieur, quoi. Donc, pour Beauvoir, les femmes, elles font partie de ce qu'on appelle la dialectique. Elles ont une signification. On peut en dire quelque chose. C'est même ce qui permet la construction de l'identité masculine, que de se différencier de l'identité féminine. Je vais vous faire un mini schéma, je pense que c'est important. Et ensuite, on va voir comment ça se différencie de la manière dont le conçoit Irigaray. Alors, petit schéma. Zoup. Ah, pardon. J'avais loqué ça. Hop, on va se remettre là-dessus. Donc en gros, je vais mettre là où je vois ce que je vous fais. Ah. En gros, mais. Excusez-moi, petit problème de manip. Donc je disais, encore une fois, ici on va mettre Beauvoir. Beauvoir, elle dit, vous avez le sujet. Je mets un M ici parce que c'est censé être masculin ou homme, j'aurais pu mettre H. Et vous avez l'autre. Je fais un petit A. Okay. Et donc le sujet, il se construit en étant en relation avec l'autre. Il existe uniquement parce qu'il y a l'autre qui lui permet de dire, eh ben moi je suis comme ceci, comme cela. Donc ça, c'est ce qu'on comprend si on lit Beauvoir, selon Butler. Et je continue, pour Irigaray, en fait, le sujet et l'autre, dans ce que je viens de vous dessiner, hein, le S et le A, eh ben, c'est que du masculin. La femme, elle est complètement hors du champ de la dialectique. La dialectique, c'est cet échange que je vous ai représenté par des flèches. Elle est hors de la reconnaissance, elle est hors de tout discours. Donc on ne peut pas en parler. Tel qu'en l'état, pour Irigaray, le discours masculin, masculiniste, ne parle que de lui-même, et il exclut l'altérité. Donc il exclut le féminin. Ça, c'est ce que dit Irigaray. Donc je vais vous dessiner la façon qu'a Irigaray de présenter le truc. Donc Irigaray... Irigaray, elle dit, en gros, on va faire un truc magique. Zoup. Hop. Ce qu'on voit là chez Butler, pour Irigaray, eh bien ça, c'est une... Hop, excusez-moi. C'est entièrement... un produit du masculinisme. Je vous l'écris comme ça. Hop. Donc ça veut dire que... Ah oui, j'avais pas mis F. F pour féminin. Hop. Eh bien ça, l'intégralité de cette discursivité, là, la femme c'est ça, l'homme c'est ça, eh bien c'est uniquement ce que disent les masculinistes. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une fiction, une production masculiniste. Et donc, il n'y a pas d'existence de la femme, en fait. C'est uniquement un truc qu'on se représente, que les masculinistes représentent, comme ça. Elle est complètement ailleurs, et c'est pour ça que c'est impossible de penser que rétablir le sujet de cette partie-là, là, de l'autre, ça va nous aider, parce que pour Beauvoir, en fait, il faut juste faire en sorte que le petit a devienne un grand A, c'est-à-dire quelque chose qui soit à peu près l'équivalent du sujet. Et ben, ça, cette représentation-là, l'idée que le féminisme, c'est de faire de l'autre un sujet égal au sujet masculin, pour Irigaray, cette idée-là, elle est fausse, parce qu'en réalité, on est dans un cadre masculiniste, et il n'y a pas de... Ça serait encore un truc mascu que de faire ça, quoi. Pour le dire comme ça. Alors, masculiniste, ça désigne pas ce que nous, on désigne par masculiniste aujourd'hui, le phénomène social, hein, c'est un terme qui est en gros désigné comme une production masculine, une production de l'hégémonie des hommes, quoi. Donc voilà la différence entre Irigaray et Beauvoir, telle que expliquée par Butler. Et alors, je vois qu'il y a eu un peu de discussion. Concernant le paragraphe 21, Butler fait sans doute référence au féminisme matérialiste français, blablabla. Oui, tout à fait. Ouais. Wittig, on en parle justement après. Mais il y a beaucoup de paragraphes où c'est pas forcément très clair. Et je trouve ça dommage, justement, que ça soit pas mentionné, parce que plus tard, on voit bien qu'elle mentionne le matérialisme, etc. Vraiment, les indices sont semés ici et là. Et alors ensuite, je vois KF. Je trouve ça dur, quand même, d'accorder la crédibilité aux théories psychanalytiques aussi à fond sur le pénis. J'arrive vraiment pas à voir où ça va et ce que c'est censé impliquer. Ouais, alors moi, ce que je trouve surtout embêtant à ce moment-là, parce que en fait, Butler, elle se sert d'Irigaray pour une partie vraiment très congrue de son argumentation, mais je pense que une chose importante aurait été, comme pour le reste, de dire d'emblée, ou de donner d'emblée le contexte que alors, c'est pas tant le problème de la psychanalyse que de se dire que elle-même, Butler, qui critique énormément des thèses essentialistes, etc., s'appuie sur, a priori, des discours qui sont potentiellement enfermants ou sur une partie de ces discours-là sans jamais les nommer, ou en tout cas en les nommant très tardivement dans son explication, comme étant effectivement essentialistes, etc., et comme des choses qu'elle-même, elle récuse, quoi. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'effectivement, on se demande un peu ce qui se passe ici avec cette histoire de où on glisse complètement dans une représentation du sexe comme étant des organes génitaux, quoi. Et c'est dommage de pas avoir été plus clair, je pense. Voilà, en gros. Donc, alors, je vous ai fait ce petit schéma. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre tout ça. Alors, ensuite, je poursuis la lecture. On va aller jusque-là. C'est bon, vous le voyez. Les femmes sont non seulement faussement représentées dans les termes sartriens du sujet signifiant et de l'autre signifié, mais le fait que la signification est fausse révèle aussi combien la structure de la représentation est, dans sa totalité, inadéquate. Donc, faussement représentée, en gros, pour Irigaray, dans le système sartrien, qui est aussi en partie le système de Beauvoir, parce qu'une partie de la pensée de Beauvoir a aspiré le système de Sartre, dans le système sartrien, ou dans le système de Beauvoir, l'autre, donc le petit a que vous voyez là, n'est pas réellement autre, c'est pas réellement une femme pour Irigaray. En effet, pour Irigaray, le langage tel qu'il est utilisé ne comprend que le masculin, ce n'est que du masculin, même s'il y a des marques de féminin. C'est une sorte de mascarade, en fait. La structure de la reconnaissance du sujet, telle que je vous ai dessiné, là, le sujet avec son autre et les petites flèches, pour Irigaray, eh bien, elle est tout entière une production masculine ou masculiniste. Donc, la femme qu'on trouve dans cette structure-là, en fait, c'est une projection masculiniste, c'est pas le vrai féminin, puisqu'on sait que chez Irigaray, il y a vraiment ce très fort différentialisme avec cette idée du vrai féminin qui est, en gros, un truc à affirmer, et à faire s'exprimer plus fort, etc. Et donc c'est impossible, alors on revient sur des trucs qu'on avait vus avant, mais si on suit Irigaray, en fait c'est impossible de se servir de la représentation, puisque celle-ci, en fait, elle est issue du même complexe que la tradition de pensée, de la même tradition de pensée, c'est-à-dire le sujet préexistant, etc. Le féminin, les femmes ne sont pas représentées par cette structure que j'ai dessinée. Cette structure ne sait que représenter le masculin et les hommes pour Irigaray. Voilà, en gros, un peu le lien avec tout ce qu'on avait dit avant, avec l'histoire de la représentation, etc. Le langage entier pour Irigaray, tel qu'il est au moment où elle le décrit, pour elle, c'est une production masculiniste. Et c'est pour ça que la part littéraire chez Irigaray est concentrée sur l'idée de produire une nouvelle langue qui serait une langue du féminin, en gros. Il y a tout ce travail-là chez Irigaray qui est important. Voilà. Alors après, pour revenir sur ce que disait KF à propos de cette histoire de pénis, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que à l'époque où Irigaray écrivait, toutes ces thèses-là autour du... le freudisme et l'école lacanienne, il y a encore ces histoires qui traînent autour des parties génitales et de la représentation des parties génitales comme étant importantes dans la symbolique, etc. Je pense que ça fait plus ou moins partie de l'époque et du contexte intellectuel dans lequel baignait Irigaray, et c'était sa manière d'y répondre, aussi imparfaite qu'on puisse la trouver rétrospectivement. Je pense que c'est vraiment un travail qu'elle a mené en réponse à ce qu'elle a pu trouver effectivement de sexisme et de masculinisme dans son milieu de travail, qui était effectivement l'université, la psychologie, la psychanalyse. Donc quelque part, ça se comprend qu'elle ait voulu défaire les schémas pour les reconstruire. Je pense qu'on peut voir ça comme ça sans se dire waouh, c'est génial, quoi. Je pense qu'il faut juste le comprendre dans ce contexte-là et se dire ok, elle a fait ça pour ça. Après, si on n'en fait rien, on n'en fait rien. Voilà, ça me semblait quand même important de se dire que même si rétrospectivement, ça nous paraît beaucoup trop lourd et beaucoup trop centré sur la génitalité, bah, y a un contexte de production qui est aussi intéressant. Et qui fait partie de l'histoire des idées, et c'est intéressant de le connaître, même si c'est pour dire c'est nul. Voilà. Alors, Pingu, j'avais jamais compris en fait. Butler s'appuie sur l'analyse psychiatrique de Rigaray. Ah, elle s'appuie dessus, mais vraiment sur une partie congrue, et ensuite elle l'évacue presque complètement. Mais ça prend 3 lignes, l'évacuation de Irigaray, après y avoir passé quelques pages, quoi. Voilà. Ensuite, KF, je comprends. D'ailleurs, c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles avoir le texte expliqué par quelqu'un qui s'y connaît, c'est vraiment précieux. Ben ouais, c'est sûr que effectivement, si on voit que le texte de Butler, il est plein de sous-texte qu'il faut ensuite aller chercher. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas été lire Irigaray, j'ai été lire la notice de dictionnaire spécialisée sur Irigaray. Et d'ailleurs, je vous renvoie, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo où je parlais du différentialisme. Je crois que c'était celle qui opposait différentialisme et matérialisme. Si ça vous intéresse, je parlais justement de Irigaray, etc., et de ces théories-là. Si vous voulez un peu plus de détails vulgarisés, en gros. Voilà. Alors du coup, on en était arrivé là. J'ai même pas fini. Ah, hop. Alors on va finir la page. Oup. Le sexe qui n'en est pas un. Donc ça c'est la formulation d'Irigaray. Le sexe qui n'en est pas un fournit ainsi un point de départ pour entreprendre une critique de la représentation hégémonique occidentale et de la métaphysique de la substance qui structure l'idée même de sujet. Donc, pour Butler, c'est à partir de la thèse d'Irigaray, qui fait du féminin façon Sartre-Beauvoir une projection masculine, c'est à partir de cette thèse-là qu'on peut comprendre qu'il est crucial de critiquer la représentation, donc juridique et politique, telle qu'elle est conçue par les sociétés occidentales modernes. Il est crucial de critiquer, pardon, la représentation en deçà de la conception qui sous-tend cette idée. La notion de sujet, en gros, c'est ça qu'il faut critiquer. C'est ce que permet de. Enfin, Irigaray nous met un peu le pied à l'étrier en nous disant bah, tout ce qu'on pense avec Beauvoir du sujet et d'arriver à hisser la femme au statut de sujet, ben, tout ça, il va falloir arriver à taper dedans. Donc, c'est un peu le. Irigaray nous met un peu le pied dans la porte pour dire ok, on va aller plus loin, on va vraiment ouvrir la porte de ce côté-là. Et donc en gros la conclusion là, c'est que étant donné tout ça, le sujet, eh ben, c'est le produit d'une culture masculiniste et il est impossible de mener à travers ces dispositifs conceptuels prenant à part le sujet. C'est impossible de mener une action d'émancipation des femmes si on garde la conception du sujet tel qu'il est. C'est impossible d'être féministe dans ces conditions-là. Ou en tout cas, de l'être jusqu'au bout ou d'une manière qui nous permet de vraiment faire un table flip, on va dire ça comme ça. Donc il est nécessaire, si on suit Butler qui a pris Irigaray, il est nécessaire de sortir de la représentation et du sujet qui la sous-tend. Donc ça, c'était ce qu'on disait la semaine dernière, surtout de la représentation. Si c'est pas clair pour vous, la représentation, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Donc reste à savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a critiqué le sujet. Mais en fait, je pense qu'on n'a surtout pas fini de critiquer le sujet. Donc, page suivante. J'ai l'impression que Beauvoir et Rigaray sont deux formes différentes de l'idée d'une égalité dans la différence, donc différentialiste. Non. Ben je pense que ça dépend aussi comment on lit Beauvoir. Alors, Beauvoir, je suis pas tout à fait sûre. Oui, effectivement, je pense qu'on peut effectivement la lire comme ça. Mais il y a des tas de manières de comprendre son texte. Pour Irigaray, égalité dans la différence, ben je pense que pas non. Je pense que pas, non, n'importe quoi. Je pense pas qu'elle dise égalité. Elle dit juste différence. Parce que l'égalité, ça l'intéresse pas, en fait. Je pense qu'elle veut surtout pas s'intéresser à la hiérarchie. Donc, pour elle, la notion d'égalité n'a pas vraiment d'importance. Parce que justement, parler d'égalité, c'est toujours potentiellement avoir la tentation de réduire l'autre au même et de faire bah, les femmes, c'est juste une variante ou un truc comme ça. Pour Erika, il y a vraiment la différence comme point fondamental. Voilà. Donc, page suivante, nous disions. Déjà 19h38, oulala. Alors, qu'est-ce que la métaphysique de la substance? Alors, ça commence comme ça, boum! On parlait d'Irigaray, qu'est-ce que la métaphysique de la substance? Et comment informe-t-elle nos manières de penser les catégories de sexe? Ok. Donc là, on dirait qu'on part sur autre chose, avec cette histoire de. En fait, non. Parce que ça va ensuite nous ramener vers Irigaray pour qu'on comprenne mieux ce que Butler veut en dire. Donc, cette histoire de définir la métaphysique de la substance, eh ben, a priori, en philosophie, la métaphysique de la substance, ce serait un syntagme qui nous renvoie à quelque chose d'extrêmement général. C'est la pensée de l'être, alors genre la totalité de l'être, de tout ce qui est. Donc, en fait, on a l'impression qu'on va partir super loin. Mais en réalité, quand on regarde la suite du texte, c'est un peu trompeur, et on voit que Butler, elle ne part pas si loin que ça. Donc l'annonce est un peu trompeuse, parce que son but, c'est d'arriver tout de suite sur les catégories de sexe. Donc pas d'inquiétude, on ne part pas sur la métaphysique de la substance avec des questions de tout l'être en général. On se concentre vraiment sur la catégorie de sexe. La page est en bas. Toutes mes excuses. Bon, j'ai lu qu'une phrase. Ouf! L'honneur est sauf. Voilà. Merci. Hop. Donc, on va continuer. Vous avez la page cette fois-ci. Tout va bien. Zoup, on va aller jusque-là. En première analyse, les conceptions humanistes du sujet tendent à supposer une personne substantive, porteuse de divers attributs essentiels et non essentiels. Alors. La substance en question, donc là, c'est la personne. Donc une substance, c'est un machin qui existe. Hein. C'est une totalité qui est une totalité, une unité d'existence réelle. C'est ça une substance, en gros. La substance en question ici, dont on parle, c'est la personne, c'est le sujet humain. Donc ici, c'est une substance de type sujet. Dans les fameuses conceptions humanistes. Donc, c'est un terme assez flou, hein, cette histoire de conception humaniste. Il n'y a pas de note de bas de page, il n'y a pas de définition. Donc, on peut que spéculer à quelle philosophie ça renvoie, mais mettons qu'elle fait un gros paquet tendanciel dans l'histoire de la pensée occidentale moderne, quoi. Et donc, ce type de sujet, dans les conceptions humanistes, ce serait un truc porteur d'attributs. Alors c'est un peu flou, dans le sens où elle dit certains attributs sont essentiels, c'est-à-dire définissent la substance, ça veut dire que sans ces attributs, elle n'existe plus, ou elle change de nature, et d'autres ne seraient pas essentiels. Bon, si une substance porte quelque chose, elle n'est pas constituée de cette chose. Donc on a un problème de vocabulaire si on veut être vraiment bien précis sur la définition. Donc je pense que c'est juste. C'est juste un problème de vocabulaire. Mais bref, une personne, c'est un machin qui existe, qui a une consistance, auquel on peut attacher des composantes diverses, donc des attributs. Et ces attributs sont plus ou moins engageants dans l'être, dans la définition de cette substance. Voilà. Donc là, on part vraiment dans. Entre guillemets, dans la philosophie pure, mais on a toujours un sous-texte sexe, genre sexualité. Hein. On n'en part jamais très loin. Mais c'est important. Ok, donc on va continuer. Hop. Une position féministe de type humaniste pourrait comprendre le genre comme un attribut d'une personne dont la caractéristique essentielle est d'être une substance ou noyau qui n'est pas encore genré, appelé personne, dénotant l'aptitude universelle à la raison, à la délibération morale ou au langage. Donc, si on est dans un cadre de féminisme avec une métaphysique de la substance humaniste, comme on vient de voir, eh bien, c'est un féminisme qui pose ou qui poserait le genre comme un attribut de la substance. Mais un attribut non essentiel. Non essentiel dans le sens où ça ne rentre pas dans la définition la plus nucléaire de l'individu. En fait, c'est pas ce qui va changer son être profond. Son être profond, c'est d'être une conscience qui s'est délibérée, machin. Donc le genre, ce serait un attribut non essentiel pour ce féminisme qui serait attaché à la métaphysique de la substance humaniste. Et les attributs essentiels, donc, on dit, c'est la raison, la capacité de juger en termes de connaissance du réel, en termes de jugement moral, tout ça. Et le genre, ça viendrait s'ajouter à ça, sans devenir une partie de la substance qui la définisse. Donc, en fin de compte, féminité ou masculinité, pour ce féminisme-là, c'est tenu hors du sujet. Vous avez le sujet qui est une conscience, tout ce qu'on a dit, et ensuite on accroche masculinité ou féminité au choix. Voilà, on continue. Toutefois, les approches historiques et anthropologiques qui comprennent le genre comme un rapport entre des sujets constitués dans des contextes sociaux précis ne prennent pas plus la conception universelle de la personne pour point de départ d'une théorie sociale du genre. Ces approches, qui considèrent le genre comme un rapport à comprendre en fonction d'un contexte, impliquent ce qu'est la personne, et même ce qu'est le genre, dépendent toujours des rapports construits qui les déterminent. Comme un phénomène mouvant et contextuel, le genre ne dénote pas un être substantif, mais un point relatif de convergence entre des rapports culturellement et historiquement spécifique. Bon, ça avait l'air d'être un gloubi-boulga, je traduis. En fait, il se trouve que quand on regarde un peu les sciences sociales, les sciences humaines, en histoire, en sociologie, eh ben on n'a pas cette conception-là du sujet, en fait. Le sujet, dans les sciences humaines et sociales, souvent, c'est pas la manière dont il est conçu. On se dit pas, eh ben, il y a la conscience, le choix, le jugement moral, et puis en dehors, on lui accroche des trucs. C'est pas ce qu'on trouve, dit Butler, en tout cas à ce moment-là de son texte, elle dit c'est pas ce qu'on trouve dans les sciences humaines, normalement. En histoire et en anthropologie, elle dit y a personne qui se sert du sujet universel pour produire des connaissances sur les phénomènes humains, ça fait référence à rien. Ce qui constitue des sujets dans ces disciplines, c'est pas une substance qui sera une sorte de sapin de Noël qu'on vient décorer ensuite. Les sujets se constituent entièrement de manière relationnelle. Il n'y a pas cette histoire de noyau soutenant un ensemble d'attributs venus d'on ne sait où. Alors, elle dit ça, mais en même temps, on sait bien qu'elle se distingue très clairement de la sociologie interactionniste qui, elle, présuppose ce genre de sujet, de substance, quoi. Donc, ou en tout cas, elle le suppose d'une manière implicite, j'ai l'impression. Bon, elle le dit à ce moment-là, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas, c'est peut-être une incohérence, c'est peut-être une mauvaise lecture de ma part, je ne sais pas. Donc je continue à expliquer. Du coup, en fait, compte tenu de cette manière de faire des sciences humaines et sociales, le genre, dans ce contexte-là, des sciences humaines et sociales, il est conçu comme relationnel et attaché à un contexte donné. Il fait partie du sujet et il n'échappe pas à cette métaphysique, en fait. Le genre, c'est aussi du relationnel, c'est aussi attaché à un contexte donné, etc. Donc c'est comme ça qu'on produit une analyse de sciences humaines ou de sciences sociales, peu importe la science. Et le genre n'est, dans ces conditions, ni essentiel à une substance, ni non essentiel attributif. En fait, il est juste relatif à un contexte donné culturellement et historiquement. En gros, c'est... Alors, je pense qu'on peut dire que Butler va dire à un autre moment que, ben, si, en fait, le paradigme scientifique, il est habité par cette pensée de la substance, seulement, c'est pas ça qui prévaut dans l'analyse, parce que ce qui est étudié par les sciences humaines et sociales, ben c'est les interactions, c'est le caractère relatif des organisations humaines et leurs implications sur la vie des individus, sur la manière de se construire. Donc c'est peut-être juste plus que être débarrassé du paradigme humaniste, c'est plutôt une focale qui est posée autre part. En tout cas, autre part par rapport à ce que peut dire le féminisme avec métaphysique de la substance, humaniste, blabla. Je ne sais pas dans quelle mesure cette phrase est vraiment une analyse pertinente. En tout cas, moi, elle me questionne. Voilà. Hop. On continue. Donc, on voit qu'on va retourner sur le texte d'Irigaray. Hop. Voilou. Effectivement, elle cite Scott, John Scott, Gender as a Useful Category of Historical Analysis. Ça a été traduit depuis, je crois. Le genre, je ne sais plus comment ça a été traduit le titre, peu importe. Mais en gros, effectivement, le texte de Scott, c'est un texte qui s'intéresse à l'utilisation de la catégorie de genre dans les analyses des historiens et des historiennes, et qui prend effectivement en compte le fait que le genre est une catégorie critiquée, et qu'on se demande ce qu'on va pouvoir en faire, étant donné que a priori on ne le considère pas comme un truc attaché à une substance. C'est un texte très intéressant. Je pense qu'un jour j'essaierai de faire du contenu sur la question du féminisme en histoire, etc. C'est extrêmement intéressant. Voilà, j'ai plus ça trop en tête. C'est des choses qu'il faut relire régulièrement. Et mon cerveau est un genre de passoire. Donc je vous dirai rien d'intelligent si je continuais à vous expliquer John Scott maintenant. Alors, nous disions, on revient à Irigaray. Rends-moi mon. Voilà, je suis là. Hop. Irigaray, je cite, donc Irigaray dirait plutôt que le sexe féminin est un point d'absence linguistique, l'impossibilité grammaticale de dénoter une substance, et donc le point de vue qui expose cette substance comme une illusion durable et fondatrice du discours masculiniste. Ok, donc là c'est une phrase dont la syntaxe est extrêmement hasardeuse, mais j'en ai tiré quelque chose comme, en fait, ici, ce qui est dit, c'est que pour Irigaray, le sexe féminin est considéré comme une nullité linguistique. Bon, ça n'existe pas. Oula, tu dis oula? Oula, oui, oula, de manière générale, oula, tout à fait. Le sexe féminin est considéré comme une nullité linguistique qui n'existe pas, parce qu'il n'y a rien qui vienne désigner une substance à cet endroit. Donc c'est ce qu'on disait, en fait, quand on regarde ce magnifique schéma que je vous avais fait, vous avez le sujet et le fameux autre, là, et ben, à aucun moment, ça ne parle de sujet. Il y a une fiction de même pas de sujet, d'ailleurs. Donc, au final, c'est considéré comme absent d'un point de vue linguistique. Voilà, il faut savoir que, effectivement, ce qui intéresse beaucoup Butler et Irigaray, c'est la question de l'influence du linguistique. Mais parfois, ça nous donne des phrases particulièrement compliquées. Ok, donc je répète. Le sexe féminin, pour Irigaray, est vu comme étant actuellement, dans le discours masculiniste, je précise, une nullité linguistique n'existe pas parce qu'il n'y a rien qui vienne désigner une substance à cet endroit-là. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de sujet. Donc parler de femme, ce serait pas, dans l'ambiance masculiniste qu'Irigaray décrit, ce serait pas faire référence à des sujets. Il n'y a pas de femme comme sujet dans le discours masculiniste, il n'y a pas de substance femme. Et alors la fin de la phrase est mystérieuse. Mais en gros, parler de sexe féminin, ça serait issu d'un discours venant dévoiler en même temps l'inexistence du sujet femme, de sexe féminin, mais en même temps, ce serait une illusion durable. Mais alors, l'illusion de quoi? On ne sait pas. L'illusion d'un sujet. Voilà, donc j'ai un peu renoncé à cette phrase. J'ai renoncé à cette phrase. Voilà, désolée. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Et je pense qu'on va s'éclairer par rapport à ça en lisant la suite. Oula, ok, tu comprends mieux. Après, oui, oui, ah bah oui, c'est pour ça que j'explique du coup. Mais moi-même, je ne suis pas très satisfaite de ce que j'en ai tiré. Mais bon, on ne peut pas toujours... On ne peut pas toujours arriver à ses fins, je pense, dans des textes aussi compliqués. Alors, je continue, je disais. Donc, cette absence n'est pas marquée en tant que telle à l'intérieur de l'économie masculine de la signification. Une affirmation forte qui retourne l'argument de Beauvoir et de Wittig. Attention, Wittig arrive. Une affirmation forte qui retourne l'argument de Beauvoir et de Wittig, selon lequel le sexe féminin est marqué alors que le sexe mâle ne l'est pas. Pour Irigaray, le sexe féminin n'est pas un manque ou un autre qui définit en soi et en négatif le sujet de dans sa masculinité. Au contraire, le sexe féminin élude justement les exigences de la représentation parce qu'il n'est ni autre ni le manque, ces catégories demeurant, je tourne la page... Ces catégories demeurant dépendantes du sujet sartrien immanente au schème phallogocentrique. En conséquence, pour Irigaray, le féminin ne pourrait jamais être la marque d'un sujet, comme l'aurait suggéré Beauvoir. Donc je vous ai fait un gros pâté, toutes mes excuses, mais on va y arriver. Donc attends, je vous marque juste... la fin, où est-ce qu'on s'est arrêté? Donc, traduction de tout ça, pour Irigaray, en gros, le sexe féminin n'est pas marqué, au sens où Beauvoir l'entend, donc marqué, par exemple, avec dans le langage, le marquage du féminin, le E et tout ce qui s'ensuit, le tris, le sexe féminin n'est pas marqué, n'est même pas désigné comme absence, contrairement à ce que disait Beauvoir, tel que cité par Butler, pareil pour Wittig, qui parle effectivement de la marque du féminin comme spécification d'un individu, ou d'un type d'individu, pardon, qui serait dégradé. Donc, pour Irigaray, le sexe féminin n'a aucun rapport avec le sexe masculin. On est toujours dans notre schéma là que je montrais, il n'y a aucun rapport entre... Le sexe féminin et le masculin, parce qu'en fait, les masculinistes, en tout cas le discours masculin, est extérieur à ce que lui-même projette. Voilà. Bon, c'est des trucs un peu embrouillés, mais voilà la manière dont je l'explique. Donc, pour Irigaray, le sexe féminin n'a aucun rapport avec le sujet masculin, il ne fait pas partie de ce qui le constitue, parce qu'en fait, le discours masculiniste s'est complètement extrait de son propre schéma, c'est-à-dire qu'il produit ce schéma sujet et autre, et il n'est pas dedans en fait, il est la totalité du discours, en gros c'est ça. Donc je répète, pour Irigaray, le sexe féminin n'a aucun rapport avec le sujet masculin, et donc il ne fait pas partie de ce qu'il constitue, même par opposition ou autre rapport. Le sexe féminin n'a juste rien à voir avec ça. Il est exclu en tant que substance et en tant que sujet, et il est exclu du processus de création, d'émergence de la substance ou du sujet masculin. Vous voyez que dans le schéma que je vous avais fait à l'endroit d'Irigaray, la seule chose qui produit, c'est le truc masculin extérieur au schéma qui vient ensuite. Voilà, bon. Donc c'est relativement complexe, mais... En résumé en une phrase, vous avez le discours masculiniste qui produit le discours qui distingue le sujet, l'autre, le masculin, le féminin, et qui feint qu'il y a un rapport. Alors qu'en fait, il n'y a pas de rapport, il y a juste lui à l'extérieur qui fait son petit théâtre là au milieu de le sujet, l'autre, etc. Ça me permet de le construire. Rien du tout. Tout ça, ça fait partie de ce qui est produit par le discours masculiniste. Donc ça, c'est ce que dirait Irigaray. En critique d'une pensée qui serait, par exemple, celle de Beauvoir. Voilà, donc on va arriver ensuite jusqu'au point suivant. Zoup. Plus encore, la première... Donc la première, c'est Beauvoir. Plus encore, la première ne pourrait pas théoriser le féminin comme un rapport déterminé entre le masculin et le féminin dans n'importe quel discours, parce que le discours n'est pas ici une notion pertinente. Les discours, y compris dans leur variété, sont autant de variations sur le sujet, sur le langage phallogocentrique. Je répète du coup. Les discours, y compris dans leur variété, sont autant de variations sur le langage phallogocentrique. Le féminin est donc aussi ce sujet qui n'en est pas un. Le rapport entre le masculin et le féminin ne peut pas être représenté dans une économie, j'ai rajouté une virgule, dans une économie de la signification où le masculin forme le cercle fermé du signifiant et du signifié. Ok, bon, ça a l'air un peu étrange, mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, on répète un peu, hein, mais... Donc, Iregaray toujours, il n'y a pas d'émergence du féminin dans le discours en tant que... il serait issu d'un rapport créatif masculin-féminin. Donc, il n'y a pas sujet autre qui produirait quelque chose, là, comme chez Beauvoir. Et donc, créatif au sens qui ferait émerger le masculin ou émerger le féminin. En fait, le discours, tout le discours, il est intégralement, comme dit Butler, phallogocentrique. Entendre par là masculin, masculiniste. Donc, ce que Iregaray montre, c'est que ces pseudo-relations entre sujet et autre, c'est pas le cadre d'un échange, c'est pas le cadre d'une rencontre. En fait, c'est le seul sujet masculin ou masculiniste qui vient tout produire. Le féminin, il est en dehors de cela, et donc il n'existe pas. Donc si on parle de sexe féminin, en fait, on ne fait référence à rien, on n'a aucun sujet, c'est juste une production masculiniste. Donc là, en fait, on tourne en vase clos chez Iregaray. On est bloqué à se faire croire qu'il y a un sujet féminin, alors qu'en réalité, tout est produit par le langage masculiniste. Donc évidemment, je me répète, hein, c'est ce que j'avais dit au début en un petit disclaimer, mais cette histoire où il y a toujours la mention de sexe féminin, etc., etc., c'est dû au fait que on est dans le vocabulaire d'Iregaray qui est très essentialiste et très axé sur la génitalité, sur le corps en tant que en tant que sexué, quoi, en gros.
Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que pour Wittig, le féminin est également une production patriarcale.
Oui, et en fait, Wittig, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. C'est un peu plus tard, c'est dans la partie suivante qu'on arrive à Wittig, et on va voir ce qu'elle dit effectivement. Mais la critique est différente en fait. On va y arriver. Merci pour cette remarque. Alors, on en était où ? On en était à finir ce paragraphe. Alors, je vois qu'il est déjà 20h. Je vais juste vérifier jusqu'où ça nous mène si on finit la partie. Normalement, on devrait y être dans pas si longtemps que ça. Hop. Ah si, dans un peu longtemps. Bon, je vais quand même essayer d'aller jusqu'à la fin de la partie. Je ne retiens personne si vous avez autre chose à faire. Mais ça me semble important d'arriver à un point qui soit une fin de partie. Voilà, de toute façon, si vous avez envie de partir maintenant, il y a toujours les replays, il y a la possibilité d'écouter, comme je disais tout à l'heure, en audio ensuite, je le verserai sur un site de podcast. Donc je continue, je disais, paradoxalement, Beauvoir pressent cette impossibilité dans le deuxième sexe, quand elle explique que les hommes ne peuvent pas décider de la question des femmes, parce que pour pouvoir le faire, il faudrait être à la fois juge et partie dans l'affaire. Juge et partie. Donc juge et partie, c'est en gros, Beauvoir elle a un petit peu flairé le truc aussi, parce que quand elle dit juge et partie, c'est en fait si on demande l'avis aux hommes sur la question des femmes, c'est demander l'avis des gens qui sont déjà en situation de maîtrise sur la question, puisque ce sont eux qui l'ont intégralement façonné. Donc Butler dit finalement Beauvoir avait un peu le nez, mais elle n'a pas fait l'intégralité de la critique. Et si on passe du côté d'Iregaray, qui dit que d'un point de vue discursif, d'un point de vue du discours de la langue, en fait, ce sont eux qui ont fait le langage et ses usages et qui façonnent la catégorie de sujet. Et on a l'intégralité de la critique. C'est un peu ça qu'il faut comprendre.
Hop, alors du coup, j'espère que j'ai encore la suite. Yes, tout va bien. Mon ordinateur s'était mis en veille. On va continuer. Hop. Donc, ah, je suis désolée, j'ai fait une bêtise. Ah. Dès que j'utilise ma roulette, ça devient critique. Si je veux déplacer ça. Hop. Voilà. Ah. Il faut qu'on puisse lire la suite. Alors, je vous mets aussi la note de bas de page, poulain de la barre. Poulain de la barre cité dans De Beauvoir. Bon, je pense qu'elle devait dire des choses peut-être pas très sympathiques sur poulain de la barre. Ok. Donc poursuivons. Donc Poulain de la Barre, pour situer, c'est un penseur féministe en gros aux alentours de la Révolution française. Et je pense qu'elle devait lui dire quelque chose comme, ou en tout cas en conclure de son intervention quelque chose comme c'est pas spécifiquement à lui de prendre la parole. Voilà, donc nous continuons la lecture. Les positions esquissées ci-dessus sont certes différentes, mais non sans rapport. On peut dire que chacune d'elles problématise à sa façon la place du sujet et du genre et leur signification respective dans le cadre socialement institué de l'asymétrie de genre. Ces différentes positions n'épuisent en aucun cas les interprétations possibles du genre. Donc là, il n'y a rien de très difficile, je ne vais pas spécialement expliciter. Donc je continue. On voit bien la circularité problématique de l'analyse féministe en termes de genre si l'on met en présence deux types de positions. D'un côté, celle où le genre est une caractéristique secondaire des personnes, et de l'autre, celle où la notion même de personne, posée dans le langage comme un sujet, est une construction masculiniste et une prérogative qui exclut effectivement la possibilité structurale et sémantique d'un genre féminin. Donc, on a deux types de thèses sur le genre. Soit c'est une caractéristique non essentielle d'un sujet, donc plutôt Beauvoir, soit on a un sujet comme masculin ou comme production masculiniste qui exclut la possibilité d'un sujet de genre féminin. Donc ça, c'est Irigaray. En quoi est-ce que ces deux analyses sont circulaires? Eh bien, on ne sait pas. Butler ne le dit pas. Donc c'est censé être évident. Moi, je vois pas trop, donc je spécule. Peut-être que c'est parce que simplement le sujet n'est pas conçu sur le même mode, donc finalement ça peut pas se répondre, ça peut pas avoir un impact l'un sur l'autre. Je ne sais pas. Donc, ce qui est rigolo, c'est que au final, cette partie-là s'appelle justement, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça parle de la circularité. De l'état des réflexions sur le féminisme, et ça ne dit pas en quoi c'est circulaire, au moment précis où ça dit circulaire. Tristesse. Alors, donc on va continuer, du coup, malgré cette petite déconvenue de lecture, je continue à lire. Il s'agit de désaccords majeurs sur la signification du genre, à commencer par la question de savoir si c'est bien du genre qu'il faut parler ou si c'est la construction discursive du sexe qui est encore plus fondamentale. Ou est-ce peut-être les femmes ou la femme et ou les hommes ou l'homme? D'où la nécessité de repenser totalement les catégories de l'identité dans le cadre de rapports de genre qui sont fondamentalement asymétriques. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est une diversité de conceptions. Il n'y a pas de points d'accord qui sont trouvés en féminisme. Et ça, c'est un problème pour Butler qui se situe au niveau de la conception de l'identité, de ce qui compose l'identité personnelle, donc des catégories dont sexe et genre. Donc c'est un problème qui situe, pardon, je répète, hein, qui se situe au niveau de la conception de l'identité, tout en continuant à penser la symétrie. Ok, donc on va voir un peu, on va continuer à lire ce que ça donne, on va tourner la page. on va arriver tout en haut, je pense. J'espère. Est-ce que j'ai tourné la page? Non. Hop. Voilà, donc là, on arrive sur la suite. D'où la question, qui est la vitigue et l'oppresseur? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Peut-être que c'est une blague, mais je ne sais pas. Donc, je poursuis. Pour Beauvoir, le sujet dans l'analytique existentielle de la misogynie est toujours déjà masculin, assimilé de matière abusive à l'universel, se différenciant d'un autre féminin, extérieur aux normes universelles de la personne, désespérément singulier, incarné, condamné à l'immanence. On compte souvent la position de Beauvoir parmi celles qui revendiquent le droit des femmes à devenir de véritables sujets existentiels et partant à être incluses dans les termes de l'universalité abstraite. Donc là, je m'arrête au milieu d'une phrase. Donc on retourne sur Beauvoir. On a le système sujet autre que je vous ai dessiné. Vous avez le sujet qui est désigné comme masculin, l'autre qui est désigné comme féminin, donc toujours sur le même petit schéma là. Hors de l'universel, le féminin est hors de l'universel, il est dans l'immanence, dans la matière, tout ça. Et donc le féminisme de Beauvoir, ce serait faire des femmes non plus des autres, mais des sujets. Faire accéder les femmes à l'universel. Je poursuis. On va aller au-delà de cette virgule. Mais sa position comporte aussi une critique fondamentale de ce caractère désincarné du sujet épistémologique masculin abstrait. Alors là, on part un peu dans les saintes, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Sujet est abstrait dans la mesure où il nie l'incarnation qui le marque socialement et projette cette incarnation déniée et dénigrée sur la sphère féminine, assignant le corps au féminin. Cette association entre le corps et le féminin est prise dans des rapports magiques de réciprocité, par quoi le féminin finit par se réduire à son corps, et le corps masculin, totalement nié, devient paradoxalement l'instrument incorporel d'une liberté prétendument absolue. Alors, donc, Beauvoir elle est critique de cette conception du sujet, et ici on mentionne la raison pour laquelle elle est critique de cette conception du sujet, tout de même. En fait, c'est la question du sujet épistémologique, c'est-à-dire le sujet qui produit du savoir, qui se place en observateur extérieur des phénomènes et qui peut donc en décrire les lois seulement par la bonne observation, une position surplombante en fait. Hein. Et donc ce sujet-là, il implique l'objectivité par opposition à la subjectivité. L'objectivité qui permet d'envisager l'objet tel qu'il est et non pas tel que le sujet le voit pour et par lui-même. Donc ça, c'est un peu la description du sujet épistémologique « mauvais », entre guillemets. Donc dans cette science, on a l'idée d'une science décontextualisée, déhistoricisée. Et Beauvoir dit, pour Butler, Beauvoir dit « être homme ou femme dans la société, c'est être incarné, c'est avoir des points de vue ». Mais dans ce type de conception abstraite de la science, comme les femmes, elles sont renvoyées et réduites au corps, donc elles ont une capacité de s'extraire du corps pour penser, et dans l'autre sens, on extrait les femmes du corps pour les placer dans le domaine du pur esprit, dans le règne de l'universel, par opposition au particulier. Et donc les hommes ne sont pas pensés comme corps, ils ne sont pas pensés comme corps sexué, ils ne sont pas pensés comme une situation particulière, mais comme une capacité de juger universelle, une liberté absolue. Et ça, de ce que dit Butler, Beauvoir le critique et dit, a priori, il faudrait aussi recontextualiser les hommes dans leur corps, dans leur situation, etc. C'est juste ça. Poursuivons. L'analyse de Beauvoir pose... L'analyse de Beauvoir pose indirectement la question suivante. Par quel acte de négation et de dénégation le masculin se donne-t-il des airs d'universalité désincarnée, tandis que le féminin est construit comme une corporéité désavouée? La dialectique du maître et de l'esclave, ici entièrement reformulée dans des termes non réciproques de l'asymétrie de genre, préfigure ce que Irigaray décrira par la suite comme une économie masculine de la signification qui inclut à la fois le sujet existentiel et son autre. Donc là, il y a énormément de choses. Donc comment se produit ce phénomène d'extraction du masculin du règne de la matière pour le projeter dans l'universel? Alors, il y a la mention de la dialectique du maître et de l'esclave, donc ça c'est une référence à Hegel. Donc, dans Hegel, pour le dire de manière extrêmement schématique et imprécise,
Le maître, il est libre parce qu'il soumet l'esclave à sa volonté. Mais en fait, l'esclave est celui qui est réellement libre car il a pour lui sa propre force d'action. Il travaille et donc il change le monde et c'est ça la liberté. Donc au final, le maître non seulement est dépendant de son esclave, mais en plus il ne change pas réellement le monde, donc il n'a pas vraiment accès à cette liberté. Et donc, en fait, c'est une image chez Hegel, cette idée du maître et de l'esclave, qui fonctionne en analogie, donc en comparaison, si vous voulez, avec son récit de l'émergence de la conscience, donc du sujet, l'émergence de la conscience, du sujet, comme un processus dialectique. Pour qu'une conscience, pour qu'un sujet existe, il lui faut un autre pour s'en distinguer en le dominant. Et le sujet existe si et seulement si il y a un autre pour se présenter comme sujet à travers la domination. Et donc, chez Beauvoir, on a une ressucée de ce truc-là, qui est que le maître est présenté comme l'homme, l'esclave comme la femme, et donc on a une sorte de dépendance des hommes envers les femmes, qui ne sont des sujets universels que parce que les femmes incarnent la matérialité. Et on pourrait ajouter, uniquement parce qu'elles les servent matériellement. Donc, en fait, c'est le rejet des femmes dans la matérialité qui permet aux hommes de se placer comme, d'exister en tant que sujet universel abstrait, sans corps. Donc ça, c'est ce que vous voyez un peu dans le schéma là que je vous ai montré, encore une fois. Ce schéma est merveilleux. Enfin, merveilleux. En tout cas, je pense qu'il aide bien à visualiser la chose. Et en fait, on a une préfiguration de ce que dit Irigaray, même si Irigaray place les femmes hors de la dialectique, puisque la dialectique est, pour elle, une production masculiniste. C'est ce qui était ici dit dans cette partie. C'est le phénomène qui est décrit par Beauvoir, et qui est ensuite repris par Irigaray avec une couche d'analyse supplémentaire, en fait. Avec la critique de dire que tout ça, ben en fait, c'est une production masculiniste. Voilà, donc je poursuis. Page 76. Pour vous rassurer ceux qui sont encore là, il nous reste la fin de la page 76, la page 77 et le début de la 78. Et après, ce sera bon. Mais il y a des notes de bas de page et tout. C'est pas tant de texte que ça. On va y arriver. Donc, je continue la lecture. Beauvoir suggère que le féminin est la situation et l'instrument... Pardon, pour ceux qui vont écouter à l'audio, ça va pas être beau. Beauvoir suggère que le féminin est la situation et l'instrument de la liberté des femmes, et non une propriété essentielle et réductrice. Donc Beauvoir, elle dit, le féminin, eh ben, c'est une catégorie qui est OK pour s'émanciper. Un peu plus et vous manquiez la suite... C'est une catégorie qui est OK pour s'émanciper, le féminin, pour Beauvoir. C'est pas juste l'outil inutilisable du maître. Et effectivement, dans la dialectique du maître et de l'esclave, on a vu, très rapidement, que l'esclave est libre, et en fait le maître ne l'est pas, malgré la situation de départ qui laissait à penser ça. Donc, on continue, parce que c'était pas très compliqué à comprendre. La théorie de l'incorporation qui marque l'analyse de Beauvoir est clairement limitée par le fait qu'elle reproduit, attention, sans esprit critique, la distinction cartésienne entre la liberté... Je tourne la page... et le corps. Hop. Bien que j'ai tenté naguère de soutenir le contraire, force est de constater que Beauvoir maintient le dualisme corps-esprit au moment même où elle propose de faire une synthèse de ces termes. Donc, en gros, Butler dit, même si j'ai essayé de dire que Beauvoir n'était pas dualiste, Beauvoir est dualiste, donc elle sépare le corps d'un côté et l'âme de l'autre, donc l'âme qui serait la substance dont on parlait tout à l'heure. Si la dialectique est masculine, on ne s'en sort plus. On essaie d'en sortir. Donc, pour Butler, Beauvoir est dualiste, donc elle sépare le corps et l'esprit étant cette fameuse substance, Et donc, le dualisme s'est posé par Butler comme une position philosophique qui est donc limitée. Et qui plus est, Beauvoir, elle entend dépasser le dualisme. Elle dit le corps comme situation, et puis vous avez la théorie de l'incorporation, etc. Mais elle n'arrive pas, en fait, dit Butler. Donc là, il y a une note de bas de page, je vous la lis pas. Mais en gros, ça dit que Beauvoir, elle est entre Sartre et Hegel, et que possiblement, le doute plane sur sa réussite à dépasser l'opposition corps-esprit et à faire du corps le lieu de la possibilité de l'émancipation des femmes. Donc en fait, au début, Butler disait « Oui, d'accord, Beauvoir, elle arrive à dépasser le dualisme, mais en fait, on peut quand même suspecter très fortement qu'elle n'y arrive pas, donc arrêtons-nous à dire que Beauvoir n'arrive pas à sortir du dualisme. Que disais-je ? Blablabla, donc ça c'est fait. On va continuer la lecture. Qu'est-ce que je vous montre ? Ah, je vous ai pas mis le petit tiret, j'ai eu peur. Alors, on va aller jusque-là. Hop. Alors, que ce soit précisément cette distinction et pas une autre qui soit maintenue, peut être analysée comme un symptôme du phallogocentrisme sous-estimé par Beauvoir. Dans la tradition philosophique allant de Platon à Descartes, ou Searle et Sartre, la distinction ontologique entre l'âme, la conscience, l'esprit et le corps sous-entend invariablement des rapports hiérarchiques et de subordination. Tous rapports qui sont politiques et psychiques. L'esprit ne se contente pas d'assujettir le corps. Il nourrit parfois même le fantasme de pouvoir totalement échapper à son incarnation. Donc en gros, ici, Butler... Ah, j'ai recommencé. Excusez-moi. En gros, ici, Butler dit... il y a ici, en gros, chez Beauvoir, il y a une manifestation du phallogocentrisme, dont elle n'arrive pas à se dépêtrer, apparemment. La distinction corps-esprit, elle est formée, elle est produite par le masculinisme, en fait. Et pour Butler, on voit l'erreur de Beauvoir dans le fait même qu'elle n'arrive pas à dépasser le dualisme corps-esprit, qui est une production masculiniste, avec cette fameuse hiérarchie. Et donc, c'est quoi ce dualisme ? Donc, en fait, pour revenir sur ce qu'elle dit, toute la philosophie qui distingue le corps et l'esprit d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire d'un point de vue d'une différence de nature, toute la philosophie qui fait découler toute la philosophie qui distingue le corps de l'esprit d'un point de vue ontologique, et en fait, elle fait découler de cette distinction entre le corps et l'esprit une hiérarchie. C'est un truc nécessaire. Évidemment, le corps est moins bien que l'esprit. Et du coup, on a tendance, enfin, dans ce jugement d'hiérarchie, il y a la tendance à voir l'esprit comme totalement détaché du corps, tellement le corps c'est nul, quoi. En gros, c'est ça. Où est-ce que j'ai mis mon stylet ? Hop ! Je crois qu'on est arrivé au bout. Alors moi, je rajoute que, en fait... Qu'est-ce que je rajoute ? Ah ! Autant pour moi. Rien, je n'en rajoute rien du tout. Hop ! Donc on a juste la fin de la page à voir, avec la note que je vous ai résumée. En construisant le corps séparément de la liberté, Beauvoir ne parvient pas à inscrire la distinction entre l'esprit et le corps qui devait permettre de voir la persistance de l'asymétrie. Je tourne la page. Sur l'axe du genre. Beauvoir sous... je m'arrête là. Excusez-moi. Donc... Oh, on est presque à la fin. Ah, ça me paraît pas tout à fait normal. Est-ce que j'ai tourné la page trop vite ? Non. Donc je répète, en construisant le corps séparément la liberté, Beauvoir ne parvient pas à inscrire la distinction entre l'esprit et le corps qui devrait permettre de voir la persistance de l'asymétrie. Sur l'axe du genre.
Ok. Donc, en gros, ici, on a une répétition du fait que Beauvoir n'arrive pas à réconcilier. Alors, est-ce que j'ai oublié un bout? Je vais juste vérifier, du coup, parce que vous mettez le doute. Normalement, non. Donc, excusez-moi, je reprends le livre hein, pour ceux qui sont à l'audio. Non, apparemment, nous n'avons pas raté. Ah! On n'a pas lu de la philosophe. La philosophie féministe ont bien étudié. Alors attendez, je vais revenir en arrière. Est-ce que j'ai oublié de lire un truc? Alors retourne page 77, toutes mes excuses. Ah oui! Tout à fait. Eh bien, nous allons finir de lire le bout de la page. Le bout de la page 77 qui nous manque. La philosophie et le féminisme ont bien étudié les associations culturelles entre l'esprit et le masculin, entre le corps et le féminin. Aussi, chaque fois que la distinction entre l'esprit et le corps est reproduite sans esprit critique, n'oublions jamais la hiérarchie de genre que cette distinction a traditionnellement servi à produire, à maintenir et à rationaliser. Donc, ici, en gros, ce qui est dit, c'est que il y a une hiérarchie qui sous-tend la hiérarchie masculin-féminin qui la fait perdurer. C'est cette fameuse hiérarchie corps-esprit qui a été assez bien identifiée. Eh bien, elle sous-tend la hiérarchie masculin-féminin. Et ça la consolide, ça la permet de, ça lui permet de constituer, de perdurer dans le temps. Donc, a priori, c'est dur de travailler encore avec cette distinction entre corps et esprit, parce qu'elle induit nécessairement de la hiérarchie que l'on retrouve ensuite dans la hiérarchie masculin-féminin. Bon, et c'est peut-être s'avancer un peu, je ne sais pas, mais ça rejoint beaucoup de critiques féministes, dont l'écoféminisme par ailleurs, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, si ça vous intéresse. Mais ce que dit Butler, en gros, c'est que ça, c'est, a priori, c'est dur de continuer à travailler avec cette distinction corps-esprit si on veut vraiment proposer une pensée féministe qui soit totalement critique. C'est dur de s'émanciper dans ce cadre qui est finalement intrinsèquement hiérarchisant. Donc voilà, on va pouvoir passer à cette partie que j'avais commencé à vous lire et que vous m'avez dit qu'en fait on avait zappé quelque chose. Donc, alors, en construisant le corps séparément de la liberté, Beauvoir ne parvient pas à inscrire la distinction entre l'esprit et le corps qui devrait permettre de voir la persistance de l'asymétrie, remontons la page, de l'asymétrie, sur l'axe du genre. Donc, j'explique. Donc il y a une répétition ici du fait que Beauvoir n'arrive pas à réconcilier le corps et l'esprit et que du coup elle ne se débarrasse pas de la hiérarchie que porte cette dichotomie. C'est juste ça. On continue. Beauvoir soutient ouvertement que le corps féminin est marqué dans le discours masculiniste, moyennant quoi le corps masculin, assimilé à l'universel, reste non marqué. Irigaray dirait que le marqueur et le marqué sont maintenus à l'intérieur d'un mode masculiniste de signification dans lequel le corps féminin est pour ainsi dire démarqué du modèle du signifiable. En langage post-hégélien, la femme est annulée, elle n'est pas préservée. Bon, c'est un peu un résumé de, tout ce qu'on vient de dire. Donc en gros, chez Beauvoir, on a le corps féminin qui est présent, et le corps masculin qui est absent du discours masculiniste. Parce que le masculin, c'est l'universel, le corps, c'est le particulier, donc c'est nul, donc c'est le féminin. Donc si on dépasse ça avec Irigaray, l'un comme l'autre, à la fois le corps féminin et le corps masculin, sont des produits du discours masculiniste. Et pareil pour l'universel, le corps, le particulier. Donc tablé sur ces catégories, issu de ce contexte de production discursive, donc, qui est masculiniste, c'est toujours resté dans le discours masculiniste, où le féminin ne peut pas être sujet. Donc c'est un problème, donc il va falloir faire autre chose, en gros. Et On va arriver juste au bout de ce passage-là. Super, on n'aura fait que 2h30. Alors, en lisant Irigaray, le sens de la déclaration de Beauvoir « La femme est le sexe » s'inverse. La femme n'est pas le sexe qu'elle est censée être, elle est plutôt « encore » et « encore » le sexe masculin qui s'affiche sur le mode de l'altérité. Pour Irigaray, ce mode phallogocentrique de signifier le sexe féminin reproduit à l'infini les fantasmes de son désir d'expansion. Loin d'être un geste linguistique d'auto-limitation qui confère l'altérité ou la différence aux femmes, le phallogocentrisme est le nom que porte le projet de faire disparaître le féminin et de prendre sa place. Donc, là, attention, tout à la fin, on atteint la pièce manquante du puzzle qui nous faisait un peu lutter sur la compréhension de Irigaray. En fait, pour Irigaray, la femme n'est pas un autre, elle est toujours, déjà, ou toujours, du masculin, mais représentée sur le mode de l'altérité. Donc le sexe féminin, ben, c'est juste une production masculiniste, et ça ne peut donc pas devenir un sujet, puisque c'est juste une projection masculiniste. Bon, on a aussi, on voit ici très particulièrement encore plus un vocabulaire de psychologie, psychanalyse, avec les termes « le fantasme de son désir d'expansion ». Donc évidemment, là, on voit bien Irigaray avec sa pensée différentialiste, qui s'exprime à travers la psychanalyse. Donc là, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur matérialisme, différentialisme, qui effectivement... développe un peu sur la pensée d'Irigaray, sur la manière dont elle reformule notamment les théories de Freud. Et donc c'est pour ça qu'ici on a ce vocabulaire très, très psychanalysant, si on peut le dire comme ça. Donc, au fin de compte, la pensée masculiniste inclut cette tendance à l'expansion, à s'intégrer partout, à faire disparaître le féminin et à prendre sa place. Donc c'est un peu obscur, parce que si finalement le féminin est une production de la pensée masculiniste, eh ben on a du mal à voir quel serait son dehors, à quel moment on en sort. Bon, c'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse. Donc j'ai rajouté quand même, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais à titre personnel, je pense que c'est difficile de se mettre à travailler avec la pensée d'Irigaray, vu qu'elle est extrêmement différentialiste, même si c'est pas pour défendre le différentialisme, parce que Butler ne défendra jamais le différentialisme, en tout cas il ne le fait pas, et on voit bien que Butler ne l'est pas, mais en fait le souci qu'on a, c'est que toute l'argumentation d'Irigaray, elle est habitée par ça, en fait. Donc au final, quel que soit le bout qu'on prenne chez elle, on retombe sur des tendances différentialistes qui sont très très lourdes. Et du coup, ça produit des trucs super étranges, du genre qu'on se retrouve à dire qu'il y a un projet de faire disparaître le féminin, comme s'il existait quelque part dans le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en anticipant un peu sur ce qui vient ensuite... Et ben, il y a une critique ensuite de Butler, il y a une critique d'Irigaray par Butler, assez légère, mais qui finalement, effectivement, l'évacue complètement de la possibilité d'être une pensée sur laquelle on produit une critique du genre, du sexe et de la sexualité. Mais pour ça, il faudra attendre sagement la semaine prochaine. Bon, on n'a pas tant avancé que ça. J'aurais bien aimé vous amener un peu plus loin, parce que vraiment... on a encore beaucoup à lire. Debout 4 heures. Bah, bon courage, Jean de Patmos. Voilà. Et on s'arrête là, de toute façon. Donc on va s'arrêter là, effectivement. Il nous reste encore pas mal de choses à lire. Je pense. Je n'y suis pas encore, évidemment, pas du tout. Je pense qu'on essaiera de lire la totalité du livre en live, de l'expliquer intégralement en live. Ça va nous prendre pas mal de temps. La suite est prête. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va la faire. Je pense qu'on ne va pas le faire toutes les semaines, parce que j'ai du travail autre, mine de rien. Peut-être toutes les 2 semaines, ça peut être un bon rythme.
Voilà, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux, tout ça. On a du temps en ce moment. Oui, effectivement, on a du temps en ce moment. Enfin, moi, personnellement, je travaille toujours beaucoup. J'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Donc, j'en profite à fond. J'en profite aussi pour faire ces lives, effectivement. Mais voilà. J'espère que tout ça, ça éclaire les choses suffisamment, que ça n'embrouille pas. De toute façon, comme je le disais, on va beaucoup répéter les choses. Et puis, n'hésitez pas à réécouter des parties, à relire le texte. Le texte en lui-même, quand je vous le lis à l'oral, j'ai conscience que le saisir d'un coup, c'est très difficile. Parce que même en le lisant d'une seule traite à l'écrit, je relis et je re-relis moi-même pour faire l'explication. Donc, quelque part, c'est compliqué et j'espère que mes explications sont suffisamment claires. Voilà, et bien du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été là et on continue. Toute la suite est déjà prête. On a je ne sais combien de pages qui sont déjà prêtes pour expliquer la suite de l'ouvrage. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.